Voilà. Il y a un petit temps de retard, comme sur l'horaire, 5 minutes, pour prendre des précautions en se disant quand même, je vois que le risque était nul. Les précautions tiennent au fait que programmer une conférence pour le 6 janvier, premier jour de la rentrée, c'était risqué, mais je vois qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Le public est suffisamment intéressé par tout le cycle pour que vous soyez là, fidèles au poste et nombreux. Donc on va continuer. Et on en vient aujourd'hui à un exposé qui est probablement un exposé un peu central, je dirais quand même, par rapport à la problématique de l'épistémologie de la philosophie des sciences, qui est le rôle du monsieur dont vous voyez la photo là, qui est Karl Popper. Et donc pour nous en parler, donc je dis oui, pourquoi je dis que c'est crucial? Parce que quand même, en dehors précisément, je dirais que si on sort du cercle des personnes qui ont un intérêt tout à fait spécifique et tout à fait particulier par rapport à l'épistémologie, s'il y a bien un nom qui apparaît comme celui de quelqu'un qui est capable ou à qui on se réfère plutôt pour énoncer des critères de scientificité, c'est bien Popper. Il est cité pratiquement dans toutes les disciplines. Alors pour nous en parler aujourd'hui, on est tout à fait heureux d'accueillir Laurence Bouquiot, qui est prof de philo à l'UNIF de Liège. Donc on continue à puiser dans le vivier des philosophes de Liège, après François Dubuisson, qui est venu nous parler d'Auguste Comte la fois passée. Et donc, elle a une double formation quand même de philosophe, et elle préside, je crois, si je ne me trompe pas, le département de
Oui, pour le
philosophie
moment, hélas.
de l'Université de Liège. Mais avant ça, elle a aussi une formation côté faculté des sciences, en maths et en physique, quelque
Oui,
chose
c'est ça,
comme ça. Donc
mathématiques
je crois que
théoriques.
c'est particulièrement intéressant d'avoir un point de vue qui est un point de vue qui permette d'aborder la question avec ce double regard qui va, je crois, nous permettre de voir dans quelle mesure et jusqu'à quel point Popper était ou n'était pas quelqu'un de clé, de crucial dans ce développement de toutes les idées autour de qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà.
Voilà, bien merci beaucoup à vous. Merci à l'extension de l'université de Mons de m'avoir fait le plaisir et l'honneur de m'inviter ce soir. Merci à vous tous d'être là en ce début d'année 2014, que je vous souhaite excellent. Enfin, je profite de l'occasion. Alors, cette conférence s'inscrit dans un cycle d'introduction à l'épistémologie. Et pour nous replonger un petit peu dans le bain après ces vacances, deux mots de l'importance de cette question qui est vraiment centrale pour l'épistémologie, qu'est-ce que la science, hein, qui est aussi, je crois, le sous-titre du cycle. Alors l'épistémologie, mais vous le savez, c'est une partie de la philosophie. C'est cette partie de la philosophie qui entreprend de faire une étude critique de la connaissance scientifique, hein, de s'interroger sur la manière dont les hypothèses scientifiques sont formés, sont testés sur les concepts et les méthodes mises en œuvre par la science. Ça, vous le savez déjà. Vous savez aussi qu'une des questions centrales que pose l'épistémologie, c'est cette question essentielle. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie scientifique? Qu'est-ce qui fait qu'on juge que telle théorie, telle approche, tel raisonnement est ou n'est pas scientifique? Hein, quels sont, comme on le dit parfois aussi, les critères de scientificité, et je crois que Pierre Gilles n'a pas pris trop de risques en vous disant que Popper, dont nous allons parler ce soir, est vraiment essentiel, est un point central en ce qui concerne les tentatives que les philosophes ont faites pour répondre à cette question. Alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer à vous parler de Popper, je voulais un peu insister sur le fait que cette question, comme on dit, de la démarcation entre la science et la non-science, n'est pas une question pour philosophes de salon, hein, qu'elle a des répercussions vraiment extrêmement pratiques, concrètes, sur le plan éthique et même sur le plan politique. Hein, vous savez, si on se demande qu'est-ce que c'est que le transcendantal chez Kant, vous pourrez trouver que c'est un peu technique, bon, c'est vrai, hein, qu'est-ce que c'est que même la substance chez Leibniz, très intéressant, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, mais enfin, on ne voit pas immédiatement, disons, la dimension presque politique de ce genre de questions, et je voudrais vous montrer que une question comme qu'est-ce que la science, c'est pas une question qu'on se pose simplement entre philosophes en se demandant, oh, tu vois, et pour toi, la science, qu'est-ce que c'est? Bon, non. Hein, ça a évidemment, y a évidemment des enjeux cruciaux là derrière, puisque c'est essentiel pour un groupe, pour des experts d'une certaine discipline, de parvenir à obtenir le label science. Hein. Je crois que la science est aujourd'hui une des sources d'autorité les plus importantes, c'est peut-être chez nous, en tout cas, la source d'autorité la plus importante. Si vous voulez convaincre quelqu'un, vous commencez par lui dire les scientifiques ont prouvé que, hein, les chercheurs ont montré que, Et donc, il est absolument crucial, je vais vous donner tout de suite quelques exemples, mais vous pourriez vous-même, j'en suis sûr, en trouver toute une série, il est absolument crucial de parvenir à convaincre que ce que l'on fait est scientifique, et quand il y a des controverses, il arrive assez souvent qu'on s'efforce de disqualifier ce que fait l'opposant en essayant de montrer que ce qu'il fait, lui, n'est pas vraiment scientifique. Vous connaissez l'argument, la science, elle est toujours de mon côté. Ce que je fais est scientifique, ce que fait l'autre, bon, c'est éventuellement de l'idéologie ou de la mauvaise science. Mais dans beaucoup de controverses, on voit que au-delà du contenu des controverses, on a une controverse vraiment épistémologique alors sur ce que c'est que la nature de la science. Parce que comme je vous le disais, cette question « qu'est-ce que la science ?» se décline en questions dont vous voyez bien tout de suite l'importance très polémique. Qui a le droit de se présenter comme scientifique? Est-ce que, un homéopathe a le droit de se présenter comme scientifique? Qui a le droit de se présenter comme expert compétent pour tel et tel domaine? Est-ce que un psychanalyste est un expert compétent pour juger de l'efficacité des théories comportementales, par exemple? Mais vous savez que tout ça a donné lieu à des controverses parfois extrêmement dures. Qui a autorité aussi pour décider ce qui est ou n'est pas scientifique? Est-ce que vraiment ça a un sens de demander, on l'a fait, j'y reviendrai, par exemple à des philosophes qui n'arrêtent pas de se poser la question, si telle ou telle discipline est ou n'est pas scientifique? Alors très vite, quelques exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, vous connaissez peut-être ce livre-là qui a pas mal fait parler de lui, donc c'est l'Atlas de la création de Harun Yahya, donc qui est un créationniste musulman, qui a, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, il a beaucoup circulé, il a été offert gratuitement à toute une série de gens, dont moi et des tas de collègues du département de philosophie. Donc c'est un ouvrage de 6 kg, une couverture en 3D, et vous savez bien que ça a donné là toute une polémique, parce que ça a été aussi envoyé dans les écoles secondaires, on se demandait si on devait laisser ce livre accessible aux élèves du secondaire, s'il fallait leur présenter en les mettant en garde contre le caractère précisément non scientifique de l'ouvrage, etc., etc. Enfin, on y reviendrait éventuellement dans la discussion. Moi-même, j'avais des enfants qui étaient dans le secondaire et j'ai fait un petit test pour voir s'ils allaient se rendre compte eux-mêmes que c'était pas ce qu'on leur enseignait à l'école. Ben, c'est pas si évident que ça. Enfin bon. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant à propos de cette question qu'est-ce que c'est que la science, et à propos de cette importance de parvenir à convaincre que ce qu'on fait soit c'est de la science et que ce que fait l'autre, ça n'en est pas vraiment. Bon, Harun Yahya, donc évidemment les évolutionnistes tout de suite sont montés au créneau, ont dit « non, c'est pas du tout scientifique ». Et je vous dis d'emblée que je suis d'accord avec eux, je ne suis pas en train d'essayer de défendre la place de la création, vous savez. Mais ce qui me semble intéressant de voir, c'est que Harun Yahya lui-même utilise le même type d'argument. En disant, mais ce que je fais, c'est vraiment scientifique. La science, elle est de mon côté. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est parce que vous avez l'esprit obscurci par toute une série de préjugés, d'arguments d'autorité. Vous avez l'esprit complètement embué par vos préjugés matérialistes. Mais regardez, voyez ce que sont les choses. Et si vous regardez ce que sont les choses sans préjugés, vous me donnerez nécessairement raison. C'est intéressant parce que l'argument d'Harun Yahya, c'est pas du tout, comme ça a pu être le cas pour certains créationnistes à d'autres époques, c'est pas du tout, écoutez, oui, la science dit des choses, mais la science n'est pas très fiable, et le Coran dit autre chose, et c'est le Coran qui a raison. Comme on a pu à un moment dire, bon, certes, il y a la vérité rationnelle, mais il y a aussi la vérité révélée, et la vérité révélée doit prévaloir sur la vérité rationnelle, quoi, sur la lumière naturelle. Harun Yahya ne vous dit pas du tout ça, il vous dit pas le Coran est plus fort que la science. Ce qu'il vous dit, c'est la science est avec moi. Et ça, je pense que ceux qui veulent défendre le caractère, ceux qui veulent défendre la science contre ce qu'ils estiment être la pseudo-science, devraient s'arrêter un petit peu aux arguments d'Harun Yahya. Parce qu'ils vont retrouver parfois les mêmes arguments que eux-mêmes utilisent. Vous allez me dire, oui, mais eux les utilisent à raison, Harun Yahya à tort. Certes, mais c'est quand même interpellant que ce soit les mêmes arguments que ceux qu'utilisent les évolutionnistes qui tapent du poing sur la table en disant « mais ce que je fais, c'est vraiment scientifique. Regardez, les faits sont avec moi. Il faut vraiment être imbu d'idéologie et de préjugés pour ne pas voir ce que moi je vois. » J'y reviendrai quand je parlerai un petit peu des faits tout à l'heure. Je parlerai un petit peu d'Harun Yahya. Alors, autre exemple, simplement pour évoquer très vite, mais c'est aussi quelque chose que vous connaissez bien, toutes les discussions autour du caractère scientifique ou non scientifique de la psychanalyse. Vous savez bien que c'est une polémique qui revient régulièrement sur le devant de la scène, hein, est-ce que la psychanalyse est vraiment scientifique ou est-ce qu'elle doit renoncer à ses prétentions à la scientificité, hein, enfin, moi, je me souviens, c'est une petite confidence, hein, quand je suis arrivé, Pierre Gilles, vous vous rappelez que j'ai d'abord fait des études de sciences, et quand je suis arrivé en philosophie, j'avais, parmi d'autres cours de sciences humaines, un cours de psychologie. Et sans exagérer, les deux tiers de ce cours de psychologie étaient consacrés à nous convaincre que la psychologie était bien scientifique, pas la psychanalyste, hein, parce que c'était un psychologue qui n'était pas psychanalyste du tout. Hein, mais, et donc, il passait deux tiers de son temps à nous dire « ce que je fais, c'est vraiment de la science ». Et voilà pourquoi, il utilisait Popper d'ailleurs, entre autres, hein, et voilà pourquoi ce que nous faisons en psychologie, c'est aussi scientifique que la biologie ou que la physique. Et j'avais vraiment été étonné, parce que, enfin, vous imaginez un prof de chimie ou de physique qui arrive devant ses étudiants et qui dit « vous savez, ce que nous faisons, c'est vraiment scientifique, hein, la physique ». Et il faut aussi s'interroger là-dessus. Hein, pourquoi est-ce que le prof de physique n'a pas besoin de le dire, hein, on y reviendra éventuellement de nouveau dans la discussion, et pourquoi est-ce que le prof de psycho est tellement soucieux, hein, de nous convaincre que ce qu'il fait, lui, c'est vraiment scientifique, autant que la physique. Enfin, et alors regardez, pour vous montrer que même en physique, ce sont des choses qui arrivent, hein, cette discussion sur le caractère scientifique d'une théorie, hein, ce sont deux livres sur la théorie des cordes qui sont extrêmement critiques, en disant, mais est-ce que c'est encore de la science, la théorie des cordes, qui, pour certains, est vraiment une des théories les plus prometteuses dans la physique théorique, hein. Et vous voyez, même Paphos, c'était une expression extrêmement méprisante, hein, d'un physicien qui disait, allez, cette théorie, elle est même pas fausse. Il y a des théories vraies, il y a des théories fausses, et puis il y a des théories qui sont tellement indécidables, hein, on y reviendra, vous savez bien que c'est un des thèmes de Popper, tellement indécidables, tellement indéterminées, qui sont tellement capables de s'adapter à tout, n'importe quoi, qui ont tellement peu d'ancrage dans l'expérience, qu'elles sont même pas fausses. Ça, c'est encore pire que d'être fausses, évidemment. Hein. Bon, elles sont pas vraies et même pas fausses. Alors, j'imagine que j'enfonce un peu des portes ouvertes, puisque vous savez déjà, je pense, si vous êtes là, hein, parce que si vous n'étiez pas convaincu de l'importance de la question, vous seriez probablement, je ne sais pas, en train de siroter un apéro, ou enfin, en tout cas, vous ne seriez pas dans cette salle. Alors, tout ça, donc, pour illustrer que je crois qu'on use et parfois on abuse de l'argument, la science est de mon côté, et en face, c'est de l'idéologie. Alors, devant cette espèce de confusion, hein, et de cette utilisation un peu sauvage de l'argument « ce que je fais, moi, est vraiment scientifique », mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, hein, et c'était bien l'idée de l'épistémologie, finalement, mais est-ce qu'on ne peut pas clarifier un peu les choses et formuler des critères de scientificité sur lesquels, en fait, toute personne de bon sens se mettrait d'accord, hein, et qui permettrait de juger un peu ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Et c'est quelque chose qu'on a demandé effectivement aux épistémologues, et vous savez peut-être que, même de manière tout à fait concrète, dans un des nombreux procès qui a opposé, disons, évolutionnistes et créationnistes aux États-Unis, on a invité comme expert un philosophe, hein, Michael Ruse. Alors ça n'arrive pas si souvent, hein, qu'on invite au tribunal un philosophe comme expert. Hein. On invite plutôt, je sais pas moi, des psychiatres ou des experts en balistique, mais un philosophe, en lui disant, dites-nous ce que c'est que la science. Parce que vous voyez, la question c'était, est-ce que on peut accorder aux créationnistes une présentation équilibrée du créationnisme et de l'évolutionnisme. Vous savez que donc il voulait qu'on présente dans l'enseignement secondaire ces deux théories de la même manière. Vous voyez, quand ils disent de façon équilibrée, ça veut dire comme deux hypothèses, concurrentes et qui ont le même statut. Okay. Et donc la question qu'on posait au juge, parce qu'il y a eu des plaintes, c'était est-ce que vraiment on peut les présenter, hein, de cette manière-là, ou bien est-ce qu'il y en a une qui ne relève pas de la science, mais de l'idéologie ou de la religion. Et dans ce cas-là, les lois des États-Unis n'autorisent pas à les enseigner de la même manière. D'accord. Et bon, pour savoir si ces deux théories avaient le même statut épistémologique, on a donc fait venir un philosophe des sciences qui a proposé une définition de ce que c'est qu'une théorie scientifique, sur laquelle s'est d'ailleurs appuyé le juge pour refuser ce traitement équilibré de l'évolutionnisme et du créationnisme. Bon, mais vous savez, il ne faut pas croire que... Ça, c'était la fin du jugement. Il ne faut pas croire que tout le monde était d'accord avec la définition de Michael Ruse. Hein. Immédiatement après, il y a des tas de philosophes qui ont dit non, mais nous, on n'est pas d'accord pour telle et telle raison. Pour nous, ce n'est pas ça la science, etc. Même s'ils étaient d'accord avec le jugement, hein, ça, c'est autre chose. Donc, ce que nous allons faire ce soir, c'est voir un peu comment Karl Popper a proposé, lui, de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une théorie scientifique? Qu'est-ce qui est scientifique? Comment distinguer la science et ce qui parfois lui ressemble, comme le Canada Dry ressemble à l'alcool, vous voyez, même couleur, même bulle, mais c'est quand même pas de l'alcool. Hein. Alors, je me suis appuyée pour présenter cet exposé sur essentiellement ces trois livres-là. Bon, Popper a écrit d'autres livres, vous connaissez peut-être Misère de l'historicisme. Il a écrit aussi une autobiographie intellectuelle, La quête inachevée, qui est vraiment très intéressante, et encore d'autres livres. Mais pour ceux qui est vraiment des questions épistémologiques que je veux traiter avec vous ce soir, mais je pense qu'à partir de ces trois ouvrages, il y a déjà moyen de se faire une bonne idée de la conception de Popper. Alors, pour commencer et pour bien comprendre les enjeux, je pense qu'il faut d'abord faire un petit détour par ce que Popper va critiquer. Hein. Popper n'est pas le premier épistémologue, le premier philosophe des sciences. Hein. Il va, en quelque sorte, partir de quelque chose qui existe déjà pour le contester. Et ce qu'il va contester, c'est l'empirisme inductiviste. Donc je vais vous rappeler rapidement ce qu'est l'empirisme inductiviste, vous résumer les critiques que Popper lui oppose, et puis je vous parlerai alors vraiment de la théorie de l'épistémologie popperienne proprement dite, qu'on appelle parfois, vous le savez peut-être, le falsificationnisme. Hein, alors, la falsification des théories, ça a donné lieu... c'est une espèce de calque de l'anglais, hein, falsifier, mais ça a donné lieu à toute une série de discussions. Parfois, on dit réfuter au lieu de falsifier. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de falsifier, qu'on peut falsifier la monnaie, ou, enfin, vous voyez bien. Hein. Enfin, je préciserai ce qu'il faut entendre par là, pour ceux d'entre vous qui peut-être ne le sauraient pas. Et puis, donc, pour terminer cet exposé, j'en viendrai un petit peu aux critiques que l'on peut faire à l'épistémologie de Popper, aux limites du falsificationnisme, limites que, pour la plupart, je dois vous le dire d'emblée, Popper lui-même avait très bien aperçues. Hein, Popper lui-même avait formulé une série d'objections qu'on pouvait faire à sa propre théorie. Et donc, il a aussi apporté une série de réponses à ces objections, préciser un peu ce qu'il voulait dire. Voilà, donc je commence par l'inductivisme et l'empirisme inductiviste. Alors d'abord, hein, back to basics, bon, en ce qui concerne l'empirisme, quand on pose la question « qu'est-ce que la science ?», je fais de temps en temps cette expérience-là avec mes étudiants, je dis « mais allez, répondez, qu'est-ce que c'est pour vous la science ?» hein. Mais je crois qu'une réponse qui vient assez spontanément à l'esprit, ça consiste à dire que la science se caractérise par un rapport privilégié à l'expérience, hein, par un rapport privilégié aux faits. Hein. En philosophie, en politique, on peut argumenter hein, de manière plus ou moins convaincante, mais on n'a pas le moyen de se confronter de manière aussi, aussi évidente, peut-être, hein, à l'expérience, à l'observation, aux faits. Et donc, une idée assez répandue, et je crois assez spontanée, consiste à dire ce qui caractérise la science, c'est que dans le cas des théories scientifiques, hein, ce sont les faits qui permettent de trancher. Hein. Il y a des faits, des observations, hein, qui nous contraignent ou bien à accepter une théorie ou bien à la refuser. Hein. Bon, si vous faites de la littérature ou de la philosophie, vous n'êtes pas contraint de la même manière par les faits. Okay. Donc ça, c'est la réponse de l'empirisme. Et l'empirisme peut avoir plusieurs formes, et nous parlerons ici ce soir de deux formes. L'empirisme inductiviste, hein, contre lequel Popper va développer sa théorie, et puis l'empirisme falsificationniste de Popper. Popper conteste une forme d'empirisme, mais ce qu'il propose comme épistémologie, c'est quand même de l'empirisme. Hein, mais une autre forme d'empirisme. Okay. Donc je vais préciser ça. Alors d'abord, en ce qui concerne l'inductivisme dit naïf, hein, c'est vrai que, enfin je crois que toute personne qui a un peu réfléchi sur ce qu'était la science, sur la manière dont ça fonctionnait, voit tout de suite les limites de cet inductivisme naïf, mais c'est pas mal de partir de là, parce que c'est quand même une façon de voir qui est extrêmement répandue, et si vous demandez aux gens comme ça dans la rue, est-ce que vous êtes d'accord que la science c'est ça, je crois que la plupart des gens vont vous dire, bah oui, c'est ça, en gros. Hein. Alors c'est quoi l'inductivisme naïf? Eh bien, ça consiste à considérer que la science doit commencer par une observation, hein, aussi pure que possible. Vous voyez, une observation qui serait comment dire, qui ne serait orienté par aucun présupposé, par aucun préjugé. Vous voyez, il faut observer de manière tout à fait naïve le monde autour de nous, sans présupposé, sans préjugé, parce que si vous avez des préjugés, votre observation sera biaisée. Okay, et il faut donc laisser parler la nature. Hein. Et puis, à force d'observer, vous formulez des énoncés d'observation hein, qui forment la base empirique de la théorie, énoncés d'observation sur lesquels tout le monde se met immédiatement d'accord. Hein. Donc aujourd'hui, 6 janvier, la planète Vénus est visible dans la constellation du Verseau. Je dis n'importe quoi, c'est sûrement pas le cas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et tout le monde peut se mettre d'accord. Hein. Il faut prendre une lunette astronomique et constater qu'effectivement, la planète Vénus se trouve bien à tel endroit aujourd'hui. Donc ces énoncés d'observation fondent les théories scientifiques, et les théories scientifiques, c'est évidemment autre chose que des énoncés d'observation. Hein. C'est pas évidemment que les théories scientifiques ne sont pas une suite d'énoncés d'observation. Hein. Les théories scientifiques ont la forme de l'universel. Hein. On vise le tout. Tous les corps, tout corps plongé dans un liquide, reçoit la part de ce liquide, etc. Tous les corps s'attirent hein, avec une force inversement proportionnelle au carré de leur distance, etc. Hein, c'est ça la forme des lois scientifiques. Ce sont des énoncés universels. C'est pas ici, maintenant, il se passe telle chose, et hier, il s'est passé telle autre chose, et avant-hier, telle autre chose. OK? Ça, comme dirait Rutherford un peu avec un certain mépris, ça c'est de la collection de timbres. Mais la science, et pour lui en particulier la physique, Rutherford était un peu, c'était un physicien... un peu méprisant, hein, j'en ris, mais ne croyez pas que je sois d'accord avec sa manière de juger la science. Il disait, en science, il y a la physique et la collection de timbres. Bon, enfin, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc la science, elle est construite à partir d'énoncés universels. Alors, ces énoncés universels, mais ils viennent néanmoins, pour l'inductivisme, hein, des énoncés d'observation. Ils sont tirés par induction, si vous voulez, par généralisation, à partir des énoncés d'observation. Les énoncés d'observation, c'est toujours ici, maintenant, j'observe telle chose. Okay? Mais quand j'ai observé des tas de fois la même chose, je peux passer par généralisation, par induction, au cas universel. Pour reprendre le cas célébrissime de Popper, hein, j'ai vu un signe blanc ce matin au parc, et chez ma grand-mère, j'ai vu un signe blanc la semaine dernière, et la semaine précédente aussi, et tous les signes que j'ai vus jusqu'à présent, était blanc, et ben, au bout d'un certain nombre d'observations, dans des circonstances variées, etc., je peux en déduire que tous les signes sont blancs. Okay, donc c'est ça, on passe hein, d'une série de cas particuliers au cas universel. Hein. Donc je fais des tas d'observations de physique, et puis au bout d'un temps, hein, je regarde tomber des pierres, je regarde la lune, etc., et puis au bout d'un temps, j'en conclue que tous les corps s'attirent, comme vous savez. Okay, donc, vous voyez, encore une fois, pour l'inductivisme naïf, il est essentiel que toutes ces observations, comme je l'ai dit, soient faites sans présupposés, sans préjugés, hein, parce que ce qui donne sa solidité à la science et son caractère objectif, c'est précisément que le scientifique ne met rien de lui-même, vous voyez, dans la théorie. La théorie, elle est tout entière induite, tirée de... Hein, sécrété presque par les observations, par les énoncés d'observation. Okay, donc, si vous avez tous les énoncés d'observation, hein, qui sont faits donc de façon tout à fait, ces observations qui sont faites de façon tout à fait naïve et non orientée, eh bien, ces énoncés d'observation impliquent d'une certaine manière la théorie. Les théories sont prouvées par les faits, par l'observation, par l'expérience. Ça va? Bon, c'est un peu caricatural ce que je raconte, mais ne croyez pas qu'on va en rester là. Hein. Bon. Donc voilà ce petit rappel concernant la conception, disons, naïve de l'inductivisme. Alors, Popper a très, très vivement critiqué cette conception. Il faut dire, pour être honnête, que même les inductivistes les plus convaincus eux-mêmes, avaient commencé à la critiquer. Hein. Parce que je parle de l'inductivisme, pour Popper, il s'oppose en particulier aux conceptions inductivistes du cercle de Vienne. Hein. Vous connaissez sans doute ce groupe d'épistémologues, de physiciens, aussi de philosophes, hein. Bon, qui avait développé effectivement un empirisme inductiviste, mais qui avait aussi déjà développé toute une série de considérations hein, à propos des limites de cet inductivisme. Mais ce que je vais vous dire, ce sont aussi des critiques de Popper. Il y a des critiques que lui-même n'a pas inventées, mais qu'il reprend à son compte. Alors, premièrement, l'inductivisme repose sur une conception qui est manifestement extrêmement contestable des rapports entre théorie et expérience. Vous savez, il est assez évident hein, que jamais aucune recherche scientifique ne se fait sans présupposés théoriques. Vous imaginez, il faut évidemment des présupposés théoriques pour entreprendre une observation ou une expérience, pour reprendre un exemple d'un épistémologue qui s'appelle Alan Chalmers, on ne va pas se mettre à étudier, à faire une étude approfondie de la forme des lobes de l'oreille si on n'a pas une idée derrière la tête, quoi. Hein, vous voyez, on ne va pas se dire, ah bon, pourquoi pas, c'est intéressant, observons ça naïvement, hein, et puis après, il en sortira bien quelque chose. Mais non, vous ne vous mettez à observer la forme des lobes de l'oreille que si vous pensez que c'est lié, je ne sais pas moi, à la propension à développer telle ou telle maladie. Hein. Vous savez, l'eugénisme, il a fait ce genre de choses. Hein. Par exemple, sur les pieds des femmes. Je vous le dis quand même, comme on a toutes des chaussures. Hein. Donc, on observe les pieds des femmes et on constate que les femmes de mauvaise vie ont un gros orteil qui est plus écarté des autres orteils que les femmes vertueuses. Enfin, bon, je vous le dis quand même. Bon, enfin, bref. Mais, donc, vous voyez, si on se met... Évidemment qu'il y a des précieux... Bon, d'abord, évidemment, le caractère scientifique de ce genre d'études est extrêmement contestable, mais si on se met à faire des recherches de ce type-là, c'est parce qu'on a évidemment des présupposés. Hein. Bon, alors, c'est vrai de théories un peu loufoques de ce type-là, mais c'est vrai, en fait, de toutes les recherches scientifiques, hein, les faits observés ne le sont que parce qu'ils sont jugés pertinents par rapport à une hypothèse qui précède, en fait, l'observation. Hein, si vous reprenez cet exemple, qui est peut-être le plus ancien historiquement, hein, ça vous reconnaissez Galilée et ses expériences sur la chute des corps, hein, faisait glisser comme ça des billes sur des plans inclinés. Allez, franchement, hein, quelqu'un qui a très bien montré ça, c'est Isabelle Stengers, si vous avez l'occasion de lire l'un de ses nombreux livres, notamment hein, L'invention des sciences modernes. Franchement, Galilée, il ne s'est pas dit « je vais étudier la chute des corps, bon, je vais regarder tout ce qui tombe autour de moi », naïvement, sans présupposer d'aucune sorte pour ne pas biaiser mes théories. Ok, je regarde tout ce qui tombe. Alors, il y a les pierres qui tombent de façon, semble-t-il, assez simple. Et puis, alors, il y a les feuilles mortes qui tombent. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Hein. Alors, il y a les flocons qui tourbillonnent. Bon, je regarde tout ce qui tombe et puis il en sortira bien quelque chose. Bon, il n'en serait évidemment jamais rien sorti. Et sûrement pas une loi, hein, ce qui est une des premières lois mathématiques, la loi de la fuite avec accélération constante. Ben, bon courage pour voir l'accélération constante quand vous regardez une feuille morte qui tombe. Hein. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il a fait, Galilée ? Il a construit, en fait, une observation. Il a mis en scène son phénomène chute des corps à partir d'une série de présupposés. Hein. Il a construit ça avec un plan incliné. Il s'est mis dans une situation où il pouvait ignorer tout ce qui lui semblait secondaire dans le phénomène chute des corps. Mais ça, c'est déjà des présupposés théoriques, hein, de dire il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont secondaires. Pour lui, par exemple, le frottement, la résistance de l'air, c'était secondaire. Ça ne faisait pas partie de l'essentiel du phénomène chute des corps. Okay, et donc, il dit, moi, je vais étudier la chute des corps dans ce qu'elle a d'essentiel, en défalquant les empêchements, comme il disait, donc en me mettant dans une situation où je peux ignorer ce qui n'est pas essentiel. Donc, par exemple, hein, et je peux et je dois construire une situation où je vais pouvoir ignorer la résistance de l'air, le frottement, etc. Hein, et raison pour laquelle, évidemment, il ne faut pas jouer avec une feuille morte, quoi, hein, parce qu'une feuille morte, vous ne pouvez pas ignorer tout ça. Mais vous voyez bien, c'est déjà... De quoi est-ce qu'il part, Galilée ? Mais de cette idée, d'une idée, d'une préconception de ce qu'est essentiellement la chute des corps. Hein, et de l'idée, par exemple, que, idéalement, hein, la chute des corps la plus pure, ce serait dans le vide. Mais ça, c'est un fameux présupposé. Aristote, il n'aurait jamais accepté ça. Hein. Pour Aristote, un mouvement dans le vide, c'était tout simplement inconcevable. Hein. Donc, et ça devient ici une espèce de cas limite idéal, hein, de modèle, dont il faudrait essayer de se rapprocher, hein, en construisant son dispositif expérimental. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et pas comme ça. Alors ça, c'est... Les gens qui sont de ma génération s'y reconnaîtront. Hein. Donc, Gottlieb et Newton. Allez, cette idée que selon laquelle Newton aurait découvert la gravitation universelle en regardant une pomme tomber, il faut quand même pas rire, quoi. Hein. Vous savez, les pommes tombaient déjà avant Newton, hein, et les gens les regardaient tomber. Et bon, donc imaginez que voilà, l'observation va vous donner comme ça miraculeusement une théorie. Enfin, dans ce cas-là, évidemment, tout le monde voit tout de suite pourquoi c'est complètement ridicule. Mais bon, donc l'idée que les observations elles-mêmes peuvent sécréter des théories sans intervention du scientifique, c'est une idée qui est tout à fait contestable et même, je crois, tout à fait fausse. Hein. J'avais d'autres. Je suis en train de regarder l'heure. Jusqu'à quelle heure est-ce que je peux parler, moi parce que je vois le moment. Bon, donc j'avais d'autres arguments pour vous convaincre de cela, mais je crois que vous en êtes déjà bien convaincu. Hein, que bon, donc autres arguments pour dire on ne commence pas par une observation. Hein, la science ne commence pas par l'observation naïve. Bon, on ne peut déterminer ce que sont les paramètres pertinents d'une expérience qu'en fonction de présupposés théoriques. Hein. Faire une expérience, c'est évidemment faire varier des paramètres et voir ce que ça change. Mais quels paramètres est-ce qu'il est intéressant de faire varier ? Ben, pour le savoir, il faut déjà avoir une idée sur le phénomène. Hein. Si j'étudie la température d'ébullition de l'huile, je sais pas moi, de colza, bon. Hein, je veux étudier ça. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire varier ? Est-ce qu'il est intéressant de faire varier la taille du récipient ? Est-ce qu'il est intéressant de faire varier la pression ? Oh, ben, la pression, on a de bonnes raisons de penser que oui. Mais pourquoi est-ce que j'ai des bonnes raisons de penser que oui ? Parce que j'ai déjà une préconception de... Hein ? Est-ce qu'il est intéressant de faire varier la couleur du récipient ? Est-ce qu'il est intéressant de faire varier la taille de mon laboratoire ? Oh, non, il ne faut quand même pas rigoler. Oui, mais enfin, quand même, hein, Hertz, là, quand il faisait des études sur les ondes hertziennes, il ne s'était pas rendu compte que, dans certains cas, les ondes se réfléchissaient sur les parois de son laboratoire, et donc que ça aurait été intéressant d'en tenir compte. Mais, donc... Savoir quels paramètres vous allez faire varier, c'est déjà, enfin, vous le choisissez déjà en fonction hein, d'une certaine connaissance du phénomène que vous étudiez. Et d'autre part, tout ce que je vous dis là, évidemment, enfin, ce que je dis là depuis Galilée, a l'air de concerner l'expérience plutôt que l'observation, hein, expérience qui suppose vraiment une intervention active sur la nature, alors que l'observation, elle, hein, ne modifierait pas ou ne supposerait pas une intervention sur la nature. Mais je veux vous montrer que même dans le cas de l'observation, hein, on ne peut pas dire qu'il y a des observations tout à fait indépendantes de présupposés théoriques. Hein. En fait, une observation ne prend son sens que par rapport à un arrière-plan théorique qui lui préexiste. Alors, il y a toute une série d'exemples qu'on peut alléguer. J'en emprunte quelques-uns à François Jacob, le biologiste. Donc, par exemple, ce qu'il disait, c'est que quand on a commencé à observer les objets vivants au microscope, donc ça, le microscope, c'est comme la lunette astronomique, c'est aussi le XVIIe siècle, donc le premier microscope. Et vous savez, c'est comme le gosse auquel on vient d'acheter son microscope, on met plein de choses en dessous pour voir un peu. Hein. Et on fait des observations, par exemple, de ce qu'on découvrira être par la suite des cellules. Alors les cellules, hein, bon, des cellules de liège, etc. Bon, des parenchymes végétaux, on observe leurs cellules. Bon. En soi, a posteriori, vous dites, ah, ben, c'est intéressant, il y avait quelque chose là. On observe les cellules. Les cellules, c'est quand même un niveau de l'organisme qui est vraiment un niveau important, intéressant. Ça reste à peu près l'être morte. Parce qu'au XVIIe siècle, on n'avait pas vraiment d'arrière-plan théorique qui pourrait vous encourager à étudier les organismes vivants comme ça à partir de leur partie, disons, élémentaire. En revanche, ce qui fait tout de suite c'est qu'il y a tout de suite un succès fou, c'est l'observation du sperme. Parce que là, on avait une théorie pour l'accueillir. On avait la théorie de la préformation au XVIIe siècle, qui est une théorie fausse. Mais enfin, on avait quand même une théorie. Donc la préformation, vous voyez, selon laquelle les bébés sont en miniature dans les têtes des spermatozoïdes, quoi, vous voyez, et puis qui ne font que grandir. Enfin, bon. Donc, vos enfants, enfin, pour ceux qui n'en ont pas encore, sont en miniature dans les spermatozoïdes, et vos petits-enfants en miniature dans les spermatozoïdes, miniature, enfin bref, vous voyez, il y avait aussi des théories, parce que je voudrais pas, enfin, évidemment, comme je suis une femme, je peux me permettre d'avoir l'air un peu sexiste, mais bon, il y avait des théories aussi analogues, équivalentes, où vous avez les bébés dans les ovules, hein, bon. Mais, alors, regardez, pour illustrer ça, hein, voilà, un texte du XVIIe siècle où on vous explique on décrit des observations, hein, on décrit ce qu'on voit. Hein. Et alors, on voit, hein, en observant le sperme, hein, ces petits animalcules hein, qui se déplacent, et immédiatement, on les interprète en fonction de la théorie, et on vous dit, oui, on voit les bébés. Alors, il y a des observations hilarantes. Hein. Quelqu'un qui a observé le sperme d'un âne et qui vous explique qu'il voit le petit ânon avec une grosse tête, des pattes courtes, etc. quoi, hein. Bon, et donc, vous voyez, toutes ces observations-là, ben, évidemment, qui sont hautement contestables, mais elles font sens, elles suscitent de l'intérêt parce qu'on a une théorie qui est prête à les accueillir. Enfin, il y a encore des tas d'autres exemples qu'on pourrait alléguer, mais je vais en rester là sur ce point. Donc, première chose importante, hein, donc première critique massive à l'inductivisme, il repose sur une conception contestable des rapports théorie-expérience. Il est tout à fait naïf d'imaginer que la science commence par une première étape qui serait purement observationnelle. Il n'y aurait que de l'observation, on y reviendra tout à l'heure. Hein, et purement observationnelle et absolument objective parce qu'elle ne devrait rien à l'intervention, au choix du scientifique. Dès le début, les théories, les considérations théoriques sont présentes et, encore une fois, Hein, quand on observe quelque chose, on l'observe parce qu'on a une question, hein, parce qu'on a une question qui préexiste et qui rend cette observation intéressante. Et on construit le phénomène, hein, comme Galilée avec son plan incliné, en fonction de ses préconceptions. D'où la fameuse formule, une formule extrêmement célèbre de Gaston Bachelard, qui disait, vous voyez bien le jeu de mots, les faits sont faits, hein, au sens de les faits sont construits par le scientifique. Alors attention, ne tirez pas tout de suite sur le pianiste, hein, donc ni Bachelard ni moi ne voulons dire qu'on fait dire n'importe quoi à la nature. Hein, donc il ne s'agit pas de dire, oh, ouais, bon, tout ça c'est de la pure fiction, il n'y a plus moyen de faire la différence entre la réalité et la fiction. Ce n'est pas du tout ça, aucun épistémologue, me semble-t-il, enfin, quoique, quand vous allez parler de Feyerabend, là peut-être ce serait moins clair, mais enfin bon... Je crois que même Feyerabend, hein, mais Feyerabend ne dirait pas ça. Il n'y a plus aucune distinction possible. C'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus de résistance de la nature, bah, d'une certaine manière, il n'y a plus moyen de faire de la science. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui résiste quand même là en face de vous. Mais n'empêche que les faits scientifiques ne sont pas les faits qui vous sont donnés immédiatement dans la, comme ça, hein, qui vous sont donnés d'emblée. Hein, ce sont des faits qui sont construits. Okay. La chute, encore une fois, la chute des corps chez Galilée, c'est pas la chute des corps dans toute sa complexité telle qu'elle vous est donnée, comme ça, dans la vie de tous les jours. Okay. Galilée, il a construit le phénomène chute des corps avant de pouvoir en donner la description mathématique. Voilà, ça c'était mon premier point, et le premier point de Popper. Alors, deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus connu encore, et c'est celui sur lequel peut-être Popper insiste le plus, hein, donc, deuxième critique à l'inductivisme, le fait que le raisonnement inductif n'est tout simplement pas valide. Alors ça, évidemment, c'est assez problématique. Vous imaginez, on vous dit toute la science est construite sur l'induction, ah ben oui, mais c'est pas logiquement valide. Bon. Alors pourquoi c'est pas logiquement valide? Je rappelle rapidement, c'est quelque chose qui est bien connu et qui a déjà été étudié de manière assez précise par Hume. D'ailleurs, Popper parle souvent du problème de Hume pour désigner ce problème de l'induction ou du manque de validité logique du raisonnement inductif. Ça consiste à dire, écoutez, vous avez beau multiplier les cas particuliers, vous avez beau multiplier les observations de cas particuliers, vous ne serez jamais autorisé à passer de cette multitude de cas particuliers, même si c'est une multitude très nombreuse, au cas universel. Ce n'est pas parce que tous les signes que vous avez observés jusqu'à présent sont blancs que vous pouvez dire que tous les signes sont blancs. Peut-être qu'un jour, on en découvrira d'autres. Et peut-être qu'il n'est pas impensable, même s'il n'en existe pas pour le moment, d'avoir un jour un signe d'une autre couleur que le blanc. Okay ? Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, vous avez toujours observé que quand vous chauffiez de l'eau, elle finissait par bouillir, que ce sera encore le cas demain. Vous allez me dire, ce serait bien le diable, c'est toujours passé comme ça, il y a quand même bien une certaine stabilité dans la nature. Vous pouvez faire une hypothèse que, et franchement, la plupart des choses qu'on apprend, ça fonctionne comme ça. Évidemment, n'importe quel gosse qui a mis la main sur la plaque de la cuisinière ne va pas réessayer 150 fois, sauf s'il est scientifique, vous voyez, pour se persuader que oui, ce sera encore comme ça la prochaine fois. Attendez, je vais peut-être... Bon, vous voyez, hein, le type qui se prend une décharge électrique, une personne normale se dit « Ah ben, je pense que je ne devrais pas recommencer. » Et le scientifique, il se dit « Je me demande si ça se passe comme ça à chaque fois. » Enfin bref, tout ça pour illustrer le fait que, effectivement, vous voyez bien que c'est une faute de raisonnement, même si on se dit « Allez, ce serait quand même bien le diable. » Mais quand même, ce n'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça que ça se passera encore comme ça la prochaine fois. Hein. D'abord, vous ne pouvez jamais faire toutes les observations possibles. Et puis, ce qui s'est passé n'impose pas de contraintes logiques à ce qui se passera demain. Hein. Donc, vous pouvez juger que vous avez d'excellentes raisons de penser que, mais vous ne pouvez pas prouver. Okay. Donc, ce raisonnement inductif, il n'est pas logiquement valide, tout simplement. Je ne peux pas passer d'une série de cas particuliers au cas universel. Et même si je multiplie les cas particuliers, je ne peux jamais prouver, affirmer, tout, etc. Okay. C'est pas parce que j'ai vu des tas de X qui sont P que je peux dire tous les X sont P. Bon. Alors, ça, on le sait depuis très longtemps, Hume le disait déjà. Hein, et quoi alors? Ben oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'heure est grave, hein, là. Parce que des gens comme Hume, qui étaient empiristes, ils avaient une grande confiance dans la science. Ils sont persuadés que c'est la connaissance la plus solide, la plus fiable dont on dispose. Et en même temps, ils reconnaissent qu'elle est construite sur un raisonnement qui n'est pas logiquement valide. Donc, voyons, Hume, comme tous les empiristes, pensait à l'époque l'empirisme sous forme d'inductivisme. Empirisme, c'est-à-dire je pars des faits, je multiplie les faits, hein, et puis alors je tire des lois à partir de là. Hein, c'est ça, hein, l'empirisme inductiviste. Ah bon ? Ben non. le passage de cette multitude de faits à la loi n'est pas logiquement valide. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ennuyeux, hein, quand on est vraiment un vrai rationaliste, vous voyez, et qu'on a vraiment foi dans la science. Bien, écoutez, la plupart, en fait, des épistémologues et des scientifiques, pendant très longtemps, ont choisi, et des philosophes, ont choisi de rester inductivistes, malgré cette difficulté essentielle, parce qu'ils ne voyaient pas d'autre moyen d'être empiristes, vous voyez. Parce qu'ils avaient envie de continuer à se dire, c'est l'expérience qui tranche, c'est l'expérience qui désigne les théories correctes, vous voyez. Alors, évidemment, l'autre attitude, ce serait de renoncer à l'empirisme et de dire, ah, ben, peut-être que par le raisonnement seul, etc. Mais si vous êtes empiriste, vous voulez continuer à dire ce sont les faits qui imposent les théories, en gros. Et c'est vrai que la première manière de penser l'empirisme, la manière la plus spontanée, c'est quand même de se dire, on va tirer les théories des faits. Et les faits et les théories seront prouvées par les faits. D'accord ? Les théories sont vérifiées, enfin, sont prouvées par les faits. Et on ne voyait pas d'autre moyen d'être empiriste. Et donc, comme on avait vraiment envie de rester empiriste, ben, on acceptait, malgré tout, l'inductivisme en étant conscient de toutes les difficultés qu'il représentait. Et justement, vous voyez, l'intérêt... je vais quand même le dire, puisque j'ai commencé ma phrase. L'intérêt de l'épistémologie de Popper, c'est d'avoir trouvé une autre manière d'être empiriste. C'est d'être parvenu, hein, à conserver l'empirisme, donc cette idée que ce sont les faits qui permettent de trancher, hein, tout en renonçant à l'inductivisme et à ce problème logique qui est associé à l'inductivisme. Vous voyez, comme je vous disais, ben voilà, ce choix risque de faire de notre connaissance une croyance rationnellement indéfendable, puisqu'elle repose sur une erreur logique. Ok ? Voilà. Alors, eh bien voilà, Popper est arrivé, hein, bon, et propose donc une épistémologie, une manière de répondre à la question qu'on se pose, enfin que vous vous posez depuis le début de ce cycle, qu'est-ce que la science, qui lui permet d'être empiriste tout en échappant au problème de Hume. Alors, comment est-ce qu'il envisage, lui, la science, hein? Eh bien, tout d'abord, ça répond à la première difficulté de l'inductivisme, hein, Popper insiste sur le fait que les théories ne sont pas sécrétées par l'expérience, elles ne sont pas données, elles ne sont pas imposées par l'expérience. Les théories sont, dit-il, des conjectures librement créées par l'esprit. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le scientifique crée joyeusement ses théories exactement comme une autre, évidemment qu'il tient compte de ce qu'il sait déjà, hein, de ce qui a été établi avant lui, de ce qu'il a observé, etc. Mais même si ces théories sont nourries, si je puis dire, ou inspirées par l'observation et l'expérience, elles ne sont jamais imposées. D'accord ? Il y a toujours une liberté, hein, du scientifique qui crée librement ses hypothèses, hein, ses conjectures théoriques. Alors, donc vous voyez, ça c'est déjà différent de l'inductivisme, pour qui on commence par l'expérience, et puis les théories viennent après. Donc là, la théorie, elle est d'abord formulée, la confrontation avec l'expérience vient dans un second temps. La confrontation avec l'expérience vient quand même, hein, pour Popper. D'accord ? Il ne s'agit pas de dire, ah oui, non, on sort de l'empirisme. Non. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que vous continuez à faire de la science si vous n'acceptez pas à un moment donné de vous confronter à l'expérience. Sauf si vous faites des maths, mais c'est encore autre chose. Bon. Mais vous vous confrontez à d'autres contraintes, évidemment, hein, qui ne sont pas expérimentales. Alors, deuxième point. Donc, vous voyez, le premier point répond à la première difficulté, hein, rapport théorie et expérience. Deuxième point, qui répond au problème de Hume, problème de l'induction. Cette confrontation entre la théorie et l'expérience, elle doit être comprise, non en termes de réfutation, mais en termes, non, je dis l'inverse de ce que je veux dire, non en termes de vérification, mais en termes de réfutation. Alors, ça, il faut préciser un petit peu ce que je veux dire par là. Je ne sais pas s'il y a encore un. Oui, c'est ça. Donc, comme c'est le titre d'un des ouvrages que j'ai montré tout à l'heure, hein, pour Popper, la science progresse par conjecture et réfutation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire que la confrontation avec l'expérience doit être pensée en termes de réfutation? Eh bien, Popper souligne ceci, il y a une asymétrie entre la question de la vérification, prouver qu'une théorie est vraie, qu'une proposition universelle est vraie, et le cas de la réfutation, prouver qu'une proposition universelle est fausse. C'est quoi l'asymétrie ? Une asymétrie, hein, en ce qui concerne le rapport à l'expérience. Comme on l'a dit, vous avez beau multiplier les observations, vous ne parviendrez jamais à prouver qu'une théorie universelle est vraie. Vous avez beau observer tous les signes blancs du monde, vous ne parviendrez jamais à montrer que tous les signes sont blancs. Hein. En revanche, dit Popper, une seule observation suffit parfois à montrer qu'une théorie est fausse. Si j'observe un seul signe qui n'est pas blanc, je peux affirmer que la théorie universelle, tous les signes sont blancs, est une théorie qui est fausse. Donc, c'est ça la force de Popper. L'expérience, l'observation peut prouver qu'une théorie universelle est fausse. Elle ne peut jamais prouver qu'elle est vraie, même si on a beaucoup, beaucoup d'observations, parce qu'on ne sait jamais, on n'est jamais sûr que vous n'observerez pas un jour autre chose, mais une seule observation peut suffire pour réfuter, comme on dit, ou pour falsifier, hein, les deux termes sont synonymes, pour réfuter une théorie, c'est-à-dire pour démontrer que cette théorie est fausse. Et ça, il faut absolument comprendre ça, hein, pour voir comment Popper va alors penser la science. Pour lui, la science, c'est quoi? C'est un ensemble de théories dont il arrive quelquefois que l'expérience ou l'observation puisse montrer qu'elles sont fausses. Dont il arrive quelquefois que l'observation puisse les réfuter. Quand la théorie est réfutée, ben, c'est tout. On l'abandonne, hein, l'observation lui a dit non, hein, on l'abandonne et on en construit une autre, on en conçoit une autre qui sera ensuite testée et conservée aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée. Okay? Donc, pour Popper, c'est comme ça que la science progresse, par conjecture et réfutation. Bon, je sais pas, moi, la physique d'Aristote expliquait une série de choses, et puis, à un moment donné, elle a été réfutée par des tas d'observations, on a fini par l'abandonner, et par la remplacer, on va aller très vite, mais enfin, bon, hein, par la physique classique, disons la physique de Newton. Newton expliquait des tas de choses pendant très longtemps, et Newton a été confronté à toute une série d'épreuves, hein, il y a eu toute une série d'observations qui pouvaient potentiellement réfuter Newton, hein, et elle a résisté pendant très très longtemps, hein, mais pas indéfiniment, hein. Finalement, il y a eu des observations dont elle n'est pas parvenue à rendre compte, hein, vous savez bien, le périhélie de Mercure et d'autres observations, et donc on l'a remplacée par une autre théorie, donc je raconte comme Popper raconte des choses, hein. Bon, par exemple celle d'Einstein, qui, jusqu'à présent, dit Popper, n'est pas réfutée. Pourtant, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a dit, ah, mais on a trouvé c'était des neutrinos, c'est ça, qui vont plus vite que la lumière, hein, Einstein est réfuté. Bon, enfin, finalement, comme vous le savez sans doute, c'était une erreur d'interprétation, mais bon. Donc, mais pour Popper, c'est pas parce que Einstein n'est pas réfuté qu'il ne le sera jamais. On n'en sait rien. Peut-être qu'il le sera un jour. Mais peu importe, la science progresse comme ça. Et Einstein est quand même meilleur que Newton, qui est meilleur qu'Aristote. Et la science progresse comme ça, par conjecture et réfutation. Alors, vous voyez, et donc là, pour Popper, il a une description de la science qui repose sur un raisonnement qui est logiquement valide cette fois-ci. Okay, hein, on garde une théorie jusqu'au moment où une observation lui donne tort. Hein, et ça, c'est possible qu'une observation donne tort à une théorie. Bon, alors, évidemment, ça présente l'avantage considérable d'être en accord avec la logique. C'est quand même pas mal que la science soit en accord avec la logique, me semble-t-il. Hein, mais ça présente, je crois qu'il faut même pas dire un inconvénient. Pour Popper, c'est certainement pas un inconvénient. Je pense que c'est pas un inconvénient non plus. Mais il faut bien comprendre que, pour Popper, cette manière de penser la science suppose qu'on renonce à la notion de vérité scientifique. Pour Popper, il n'y a pas de vérité scientifique. Il y a des conjectures qui peuvent être éventuellement très bien corroborées, il y a des théories qui jusqu'à présent ne sont pas réfutées, mais ce ne sont pas des vérités avec un grand V qui seraient définitivement établies et qui seraient prouvées par l'expérience. D'accord? Donc vous savez, dans les anciens manuels de philo, on voyait parfois, bon, il y a d'abord des hypothèses scientifiques, et puis alors il y a une étape qui est tester les hypothèses, et puis il sort de là des vérités scientifiques. Une fois qu'on les a testées, on les a prouvées, ah non! Pour Popper, toutes les théories scientifiques, toutes les propositions scientifiques restent pour toujours hypothétiques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fiables, ça veut pas dire, mais elles restent pour toujours hypothétiques. On ne peut jamais être certain qu'elles ne seront pas un jour remplacées par d'autres théories. Alors, ça c'est vraiment essentiel, hein, pour Popper. J'ai pris là quelques citations de lui, hein, l'idéal. Et ça, c'est quelque chose de très beau, je trouve, dans l'épistémologie de Popper. Cette idée que la science, c'est pas une connaissance définitive. On y reviendra quand on parlera de son critère de réfutabilité. C'est pas quelque chose d'absolument définitif. Que seul le dogme peut être définitif. Le dogme peut être définitif. Hein, l'Immaculée Conception de la Vierge, c'est comme ça, et ça ne changera pas. Hein. Bon, la science, non, pour Popper. Vous voyez ce qu'il dit? L'idéal d'une connaissance absolument certaine de l'épistémé, hein, d'où vient d'ailleurs l'épistémologie, mais bon, hein, l'idéal d'une connaissance absolument certaine est démontrable, c'est révélé être une idole. Il n'y a pas de théorie qui soit définitivement démontrée. Okay, tout énoncé scientifique reste nécessairement et à jamais donné à titre d'essai. Et alors ça, je trouve que c'est une très belle citation. Hein. Ce qui fait l'homme de science, dit-il, ce n'est pas la possession de connaissances et d'irréfutables vérités, mais la quête obstinée et audacieusement critique de la vérité. Ce qui fait l'homme de science, c'est ce désir de rechercher sans cesse la vérité, et pas cette position qui serait je l'ai démontré, je la possède définitivement. Et ça, vraiment, les scientifiques doivent méditer là-dessus, je pense. Enfin, donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense que cette manière de définir la science et cette attention au fait que les théories les plus solides peuvent un jour être réfutées, donc il n'y a pas de théorie définitive, je crois que si Popper a été attentif à ça, c'est lié, il le dit lui-même, hein, je ne prends pas de risque en vous disant ça, vous savez, il le dit lui-même, c'est lié à l'époque où il vivait, hein, et à son admiration pour Einstein. Hein. Popper est quelqu'un qui a beaucoup admiré Einstein et qui était, mais comme tous les physiciens et comme tous les épistémologues, vous savez, mais vraiment bouleversé, hein, par le développement de la relativité et la mise en cause qui allait de pair de la physique newtonienne. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la physique newtonienne, c'était le truc le plus solide qu'on puisse imaginer. Hein. Depuis le début du 19e siècle, on peut se poser la question à propos de tas de disciplines, est-ce que c'est vraiment scientifique, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que la psychologie, la sociologie, machin, etc. Mais s'il y a un truc qui est clairement scientifique et dont personne n'aurait jamais, je pense, pensé à se demander si c'était scientifique, c'était Newton, quoi. Vous savez, si Newton n'est plus scientifique, il sait tout, il faut rendre son tablier, hein, bon. Enfin, je veux dire, un épistémologue qui dont la définition de la science l'amènera à dire, ah bon, tout compte fait, la physique de Newton, c'est pas de la science, il vaut mieux qu'il change la définition de la science, hein, parce que, bon, enfin, vous voyez. Et donc, Popper se trouve dans une situation où une théorie qui est incontestablement scientifique est pourtant mise en difficulté, et même réfuté, hein, par une série d'observations, et puis remplacé par une autre théorie. Et donc à ce moment-là, il faut trouver une définition de la science qui autorise ce genre de choses, vous voyez ? Une définition de la science qui permettrait de continuer à dire, ben oui, Newton c'était vraiment de la science, hein, même si elle a finalement été réfutée. Ça va ? Donc voilà ce premier point que sur lequel je voulais insister, donc c'est la description de la démarche scientifique selon Karl Popper. Donc, encore une fois, il faut vraiment voir, parce que je pense que l'essentiel de Popper est là-dedans. Le scientifique n'est pas celui qui prétend posséder des vérités incontestables, c'est celui qui est toujours prêt à remettre en cause ses hypothèses, hein, qui a une attitude critique à l'égard de ses théories, hein, qui les teste en sachant que peut-être les tests qu'il va faire, il les met en risque, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est pas je vais faire une série de tests et puis je vais être de plus en plus convaincu de ma théorie. Non, non, je vais mettre ma théorie en risque, hein, et voir dans quelle mesure elle va résister. Et d'une certaine manière, si elle ne résiste pas, c'est pas un échec. C'est pas un échec, c'est la possibilité d'inventer autre chose. On apprend de ses erreurs, hein, ça, Popper n'arrête pas de le dire. On apprend, la science apprend à partir de ses erreurs. Hein. Il n'y a que les dogmes qui peuvent être présentés comme absolument incontestables. Justement, les théories scientifiques, elles se reconnaissent à ceux-ci qu'elles peuvent être contestées. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce qu'il y a tellement de gens qui croient, comme je vous parlais tout à l'heure, de ces gens qui tapent du poing sur la table en disant « Oui, non, 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 mais Harun Yahya, c'est n'importe quoi. Ce que nous faisons, nous, c'est vraiment scientifique, c'est définitif, c'est prouvé, etc. » Mais attendez, non, Harun Yahya peut faire exactement la même chose. Non, moi, ce que je dis, c'est définitif, c'est prouvé, c'est bon. Hein? Donc, ce qu'il y a de particulier à la science, hein, selon Popper, je trouve que c'est vraiment une belle idée, c'est justement que ces théories prennent des risques et elles risquent d'être fausses. Il y a une espèce d'éloge de la fragilité, si vous voulez, chez Popper, et d'éloge de l'audace, bien sûr, mais aussi de la fragilité. Hein. La théorie bétonnée, vous voyez, qui ne risque rien, ben c'est une théorie qui, la plupart du temps, ne dit rien. Et ceci m'amène tout naturellement à vous parler d'un autre point concernant Popper, mais tout à fait lié au précédent, qui est de préciser un petit peu son critère de scientificité. Et je crois que plus encore que la résolution du problème de l'induction dont je viens de parler, hein, ce critère a fait connaître Popper auprès de gens qui ne sont pas des spécialistes de la philosophie des sciences, et notamment auprès des scientifiques. Je ne sais pas si vous savez que je vous ai montré le livre tout à l'heure, dans la traduction française de la logique de la découverte scientifique, hein, donc du premier grand livre de Popper, hein, il y a une préface qui est écrite par Jacques Monod, hein, vous voyez bien le prix Nobel, hein, et qui dit, je ne sais pas si je dois vous le dire, surtout aux scientifiques qui sont parmi vous, parce que bon, mais enfin quand même, Jacques Monod disait, ben, ça c'est un des rares livres, vous voyez, de philosophie qui peut vraiment apporter quelque chose aux scientifiques. Hein. Et enfin, c'était pour lui un hommage magnifique à ce livre de Popper. Hein. Voilà, une des rarissimes œuvres de philosophie, dit-il, qui puisse contribuer réellement à la formation d'un homme de science. Alors pourquoi est-ce que ça a eu tant de succès, ce critère? Eh bien, parce que toute une série de gens, et bien sûr de scientifiques, y ont vu la possibilité de faire enfin la distinction entre le bon grain et l'ivraie. Hein, un outil qui leur paraissait extrêmement précieux et pour distinguer la science et ce qui prend toutes les allures de la science, mais qui n'est pas vraiment de la science. Et je crois, à vrai dire, qu'on a aussi abusé de ce critère, et on l'a caricaturé. Popper est beaucoup plus subtil que ce qu'on fait en général de son critère, mais je vais quand même vous l'exposer un peu rapidement dans les grandes lignes, et puis je rentrerai dans les détails ensuite. Donc, en gros, ce que Popper affirme, c'est que une théorie ne peut être scientifique que si elle est réfutable. Hein. Ce qui n'est pas réfutable ne mérite pas le qualificatif scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réfutable, hein, ben voilà la définition, hein, une hypothèse ou qu'une théorie, si vous voulez, est réfutable, s'il est possible d'imaginer au moins un énoncé d'observation qui lui est contradictoire, c'est-à-dire qu'il la réfuterait, s'il était vrai. Alors, donc il faut donner quelques exemples pour vous permettre de voir exactement de quoi il s'agit. Donc, pour Popper, vous avez bien compris, toutes les théories scientifiques sont réfutables. La théorie de Newton, elle est par exemple tout à fait réfutable. Réfutable ne veut pas dire réfuter, attention. Réfutable, il y a des choses qui peuvent être, c'est comme un verre cassable, n'est pas nécessairement cassé. Hein. Donc, je cherche quelque chose à laisser tomber, mais... allez, je vais essayer avec ça. Ne prenons pas de risques. Bon, la théorie de Newton, comme toutes les théories scientifiques, est réfutable. Bon, par exemple, la théorie de Newton, elle m'annonce, elle me laisse penser que si je lâche mon trousseau de clés, ben, les clés vont tomber. Effectivement, en gros, avec une accélération constante. Bon, voilà. Est-ce que je peux imaginer un énoncé d'observation qui donnerait tort à Newton? Bien sûr, je peux l'imaginer. Je ne dis pas qu'on va l'observer pour du vrai, hein. Je dis que je peux imaginer un énoncé d'observation. Donc je peux imaginer que je lâche mes clés et qu'elles vont se mettre à faire de la lévitation, par exemple. Hein? Ça, c'est une observation qui donnerait tort à Newton. Alors évidemment, comme vous, je crois que ça ne va pas se passer, et donc je ne vais pas faire l'expérience. Mais vous voyez, il suffit que je puisse imaginer quelque chose qui donne tort à la théorie pour que cette théorie soit réfutable. Je peux imaginer que je découvre un jour que les planètes ne suivent pas exactement la trajectoire prévue par Newton. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Bon, donc je peux imaginer des observations qui vont contredire la théorie de Newton. Okay. Même si ces observations, je ne les fais pas effectivement. Vous voyez bien l'idée. Hein. Vous allez me dire, oui, mais alors on peut toujours, non, imaginer des observations qui contredisent une théorie imaginée. Eh bien non. Non, vous dit Popper. Non, il y a des théories pseudo-scientifiques qui sont totalement irréfutables, en ce sens que je ne peux même pas imaginer un énoncé d'observation, une situation qui leur donnerait tort. Exemple, je prends un exemple très simple, d'abord, de l'astrologie. Eh bien, tous les scorpions vont faire une rencontre intéressante dans le mois qui vient. Bon, voilà. Ça, pour Popper, c'est le type même d'énoncé totalement irréfutable, en ce sens que je ne peux pas imaginer une situation qui réfuterait, qui me donnerait tort, ok? Vous allez me dire, moi je suis scorpion, et si vous voulez, je vais vous donner tort pendant on peut imaginer que je vous retrouve le mois prochain, vous dites, vous savez, il ne m'est rien arrivé d'extraordinaire depuis ce mois-ci, votre histoire est réfutée. Vous comprenez bien que si je suis un peu habile, je vais vous dire, mais si, écoutez, il y a quelqu'un que vous avez croisé, vous ne le savez pas encore, mais un jour il sera tellement important pour vous, voilà. Et même si vous vous dites, non, moi je me suis, pour être sûr de vous donner tort, je me suis enfermé dans ma chambre, je n'ai vu personne. Ah, vous êtes enfermé dans votre chambre, vous avez lu, et vous savez, il y a des rencontres littéraires qui sont tellement plus importantes que les rencontres réelles, enfin bref. Donc vous voyez bien comment, et je suppose que vous avez déjà été confronté à ce genre de choses, des gens qui parviennent à tenir une position qui est absolument irréfutable, tout à fait bétonnée, vous ne pouvez pas leur donner tort. Et donc, ce que Popper dit, c'est, regardez, ça, si vous avez une position inattaquable, une position, une théorie ou une hypothèse irréfutable, elle ne peut pas être scientifique. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors qu'on a tellement l'habitude de dire, ouais, non, la science, c'est bétonné, c'est certain, c'est sûr, c'est bon, c'est définitif. Non. Si c'est vraiment certain, bétonné, irréfutable, etc., c'est précisément pas scientifique. Vous voyez, c'est intéressant ce qu'il dit là. Il vous dit, si vous voulez vous en prendre aux pseudo-sciences, n'essayez pas de prouver que l'observation leur donne tort. C'est pas ça le problème. Bon courage pour prouver qu'un horoscope a tort. Hein, quand on vous dit, ben, voilà, soyez particulièrement prudent ce mois-ci, bon, ok. Hein, sinon, vous risqueriez, je sais pas quoi, embellir dans votre vie sentimentale. Bon, enfin. Donc, quand vous êtes devant cette situation-là, il ne faut pas essayer de prouver à celui qui vous tient des discours comme ça que l'observation lui donne tort. Bien au contraire, si ces théories ne sont pas scientifiques, ce n'est pas parce que l'observation leur donne tort, c'est parce que l'observation ne peut pas leur donner tort. Vous voyez ? C'est parce qu'il est impossible que l'observation leur donne tort. Il est impossible d'imaginer une situation où l'observation leur donnerait tort. Eh bien, vous dit Popper, dans ce cas-là, ce sont des théories qui sont tout simplement creuses, qui n'ont pas de contenu empirique, qui ne disent rien sur le monde. Dès que vous dites quelque chose sur le monde, vous prenez le risque que le monde vous donne tort. Si je dis tous les corps tombent avec une accélération constante, je prends le risque que le monde me donne tort. Si je vous dis vous allez faire une rencontre intéressante le mois prochain, je ne prends aucun risque. Vous voyez ? Je ne prends aucun risque, mais tout simplement parce que, en fait, je ne dis rien sur le monde. Il n'y a pas d'information là-dedans, même si vous avez l'impression, si vous pouvez avoir l'impression qu'il y en a. Hein, et vous allez faire, il y a en réalité pas d'information. Quelque chose qui n'est pas réfuté. Et vous voyez, le contenu empirique, donc l'information que contient un énoncé ou une théorie, est d'autant plus important qu'il y a davantage de manières de la réfuter, hein, davantage d'observations qui pourraient leur donner tort. Donc vous voyez, le contenu empirique, il est lié au risque que prend la théorie. Vous voyez ? Et d'une certaine manière, à sa fragilité. Alors, je me suis un peu emballée, je ne sais plus très bien où j'en suis, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, oui, c'est ça, là aussi, je ne sais plus très bien où j'en suis dans mes diapositives, mais enfin, bon, on va y arriver. Donc, le critère de réfutabilité doit permettre d'éliminer les affirmations sans véritable contenu informatif, c'est ce que je vous disais. Hein. Une théorie scientifique, elle doit prendre des risques. Une théorie qui ne prend pas de risques ne dit rien sur le monde, simplement. Et encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, sa manière de définir la science était liée à l'admiration qu'il avait pour Einstein et à ce moment où on s'est dit, mais finalement, la théorie de Newton n'était pas vraie au sens absolu. Hein. Là aussi, on pourrait dire que cette élaboration du critère de scientificité est liée, en fait, un peu à des éléments biographiques de la vie de Popper. Hein. Vous savez bien, parce que j'ai pris un exemple qui n'était pas du tout conflictuel, enfin, ou pas... très conflictuel, il faut bien le dire, hein, l'astrologie, mais c'était pas ça la cible de Popper, évidemment. Hein, l'astrologie, à l'époque où écrit Popper, ben, c'est quand même plus une des disciplines qu'on considère comme étant incontestablement scientifique, ou pour laquelle la question de la scientificité se pose. Donc, les cibles de Popper, c'était quoi ? Ben, vous le savez peut-être, c'était notamment la psychanalyse et le matérialisme historique. Hein, deux théories auxquelles il va contester, en fait, leur prétention à la scientificité. Donc, l'idée de Popper, c'est par exemple prendre l'exemple de la psychanalyse. Hein, il raconte ça dans la logique de la découverte scientifique. Quand il était jeune, il s'était intéressé à la psychanalyse, il avait travaillé d'ailleurs avec des psychanalystes, et il raconte qu'il avait été très impressionné par la puissance de la théorie. Il dit, c'est quand même incroyable, quoi. On vient près du psychanalyste avec des questions qui peuvent être extrêmement variées, des cas très très différents, et à chaque fois, le psychanalyste parvient à donner une interprétation en termes analytiques, quoi. Enfin, quelle puissance! Et puis, il raconte qu'à un moment donné, il en est venu à se demander si cette extraordinaire puissance d'avoir en quelque sorte réponse à tout, vous voyez, n'était pas en fait une faiblesse et ne prouvait pas que, finalement, quelle que soit la situation, le psychanalyste allait pouvoir en rendre compte. Et que ça, peut-être, c'était pas une force de pouvoir rendre compte de toutes les situations. Et il en est venu à se demander, mais est-ce qu'on peut imaginer, finalement, une situation devant laquelle le psychanalyste devrait dire, bah, là, non, la psychanalyse, finalement, ben, elle est réfutée sur ce point-là, elle a eu tort, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Et Popper prétend que non, et prétend que les psychanalystes ont souvent développé toute une série de stratégies qui leur permettent d'avoir toujours raison, vous voyez ? Hein, alors, des exemples qu'on prend souvent, il y en a toute une série, hein, mais par exemple, le cas du déni, faire du déni un mécanisme de défense. Donc, si vous dites à quelqu'un, vous savez, si le psychanalyste dit à quelqu'un, ben, je pense que si vous avez telle et telle difficulté, c'est parce que vous avez eu une mère particulièrement castratrice, bon, okay. Et que on dit, ah non, mais moi, ma mère, elle n'était pas du tout comme ça. Ah, le fait que vous disiez non prouve que c'est vrai. Vous voyez ? Alors, mais non, mais hein, vous résistez. Et donc, Popper dit, oui, mais à partir de ce moment-là, enfin, vous voyez, si quand on me dit que j'ai tort, je considère que c'est une preuve que ce que je dis est vrai. Et alors, il explique ça de façon plus élaborée et plus nuancée que je ne le fais là, mais dans les grandes lignes, c'est ça, vous voyez son idée. Hein, la psychanalyse est irréfutable. Et donc, à ses yeux, elle n'est pas une science empirique, elle n'a pas de contenu empirique. Alors maintenant, je dois quand même vous dire que Popper n'est pas quelqu'un qui tire à boulet rouge sur la psychanalyse en jugeant que c'est sans intérêt, parce que parfois on en a fait ça. Je connais une série de collègues qui vous disent oui, non, mais Popper a démontré définitivement que la psychanalyse est sans intérêt. Popper n'a jamais dit ça. Il dit je conteste ses prétentions à la scientificité. Mais c'est une théorie interprétative tout à fait riche, tout à fait intéressante. Au même titre que la philosophie, Popper ne considère pas du tout que la philosophie est une science empirique. Sa propre philosophie, vous voyez, il ne faut pas essayer de réfuter la théorie de Popper. Il est le premier à vous dire, bien sûr, ce que je fais, c'est pas réfutable. Ça n'a pas de contenu empirique. Ce n'est pas quelque chose qui est censé décrire le monde ou décrire la nature. La métaphysique, pour lui, est tout à fait intéressante, tout à fait passionnante. Il s'est d'ailleurs beaucoup intéressé, mais elle n'est pas une science empirique. Voilà. Il y a d'autres approches du monde intéressantes, il y a des tas de choses qui ne sont pas des sciences empiriques et qui méritent quand même qu'on s'y intéresse. Donc il faut bien voir ça, ne pas croire que Popper juge dépourvu d'intérêt tout ce qui n'est pas proprement scientifique. De ce point de vue-là, il ne faut pas confondre son attitude avec celle de quelqu'un comme Carnap, vous savez, qui tire à boulet rouge, vous le savez peut-être, sur la métaphysique, en vous disant tout simplement, la métaphysique, elle est dépourvue de sens, elle n'a aucun sens. Donc c'est pas seulement la métaphysique n'est pas scientifique, c'est la métaphysique est dépourvue de sens. Vous savez bien, peut-être pour Carnap, toutes les propositions métaphysiques sont du style le babu a trop bu, ou considérez que le mot babu n'a pas de sens en français, le babu a trop bu, ou blablabla. Ça n'a pas plus, si je vous dis Dieu existe ou Dieu n'existe pas, comme vous préférez, ça n'a pas plus de sens pour Carnap que si je vous dis blablabla. Ce sont des sauts vocaux dépourvus de sens. C'est quand même une critique très très étonnante, enfin on y reviendra si vous voulez dans la discussion et aux arguments de Carnap. Mais donc pour lui, vous voyez, c'est, non seulement ce n'est pas testable, ce n'est pas empirique, tout ce que vous voulez, mais ça n'a même aucun sens. Alors que pour la plupart d'entre nous, la proposition Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas, vous pouvez considérer, a un sens, alors vous pouvez considérer qu'on ne sera jamais sûr de rien, ou que oui, vous pensez que oui, ou bien non, vous pensez que non, mais si je vous dis ça, là, vous n'avez pas la même réaction, me semble-t-il, que si je vous dis le babu a trop bu. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que pour Popper, on n'en est pas là-dessus, il va contester Carnap et vous dit, moi, mon critère de réfutabilité, c'est un critère de démarcation entre la science empirique et ce qui n'est pas science empirique. Ce n'est pas un critère de signification. Ça ne me permet pas de distinguer ce qui a un sens et ce qui n'en a pas. Alors que pour Carnap, les deux choses se superposaient tout à fait. Pour Carnap, est scientifique ce qui a un sens et a un sens ce qui est scientifique. Et le domaine de la science recouvre parfaitement le domaine du sens. C'est une thèse extrêmement forte, vous vous rendez compte. Donc, tout ce que je dis, ou bien ça a un sens, enfin, ou bien c'est scientifique, ou bien ça n'a pas de sens. C'est quand même très très étonnant. Si je vous dis je me sens un peu angoissé aujourd'hui, ça a quand même un sens, là, non? Et c'est scientifique. On peut préciser les conditions empiriques auxquelles cette proposition est vraie. Ça veut dire quoi? Je suis un peu angoissé, là. Ça veut dire mon pouls. Donc, la réponse d'un Carnapien convaincu, ce serait de dire, attendez, qu'est-ce que vous dites quand vous dites vous êtes un peu angoissé? Qu'est-ce que vous entendez par là? Pas un état mental obscur. Ça veut dire mon pouls est supérieur à, je sais pas quoi, 120 battements par minute, mon taux d'adrénaline est supérieur à ceci, ma connaissance de la physiologie n'est pas suffisante pour que je continue, mais vous voyez. Et on peut mesurer tout ça et dire je suis un peu angoissé, ça veut juste dire ça. Et ça, on peut vérifier, vous voyez, ça veut dire cette suite de conditions, mon pouls est... Est-ce qu'on peut accepter ça? Quand je vous dis je suis un peu angoissé, j'ai l'impression de vouloir dire autre chose que les résultats de ces examens médicaux sont ceci et cela. Bon. Enfin, revenons à Popper, là je m'égare un petit peu. J'espère que tout le monde a bien compris comment Popper développe un empirisme qui n'est pas inductiviste, hein, qui est fondée sur un raisonnement qui est logiquement valide, le processus de réfutation des théories hein, plutôt que de leur vérification, et comment Popper, à partir de là, peut préciser un critère de scientificité, hein, qui est celui de la réfutabilité, et défendre l'idée qu'une théorie, pour être scientifique, pour avoir un contenu empirique, doit nécessairement être réfutable, c'est-à-dire telle que vous puissiez au moins imaginer une observation qui lui donnerait tort. Hein, ce que vous ne pouvez pas faire pour l'astrologie et, selon Popper, non plus pour la psychanalyse et, toujours selon Popper, non plus pour le matérialisme historique, donc la théorie de l'histoire de Marx. Alors, je voulais maintenant en venir au troisième point de cette conférence et vous parler un petit peu des difficultés du falsificationnisme, des limites du falsificationnisme. Et vous allez voir que ce sont des... J'ai intitulé ça « Les difficultés de l'empirisme, les limites du falsificationnisme » parce que les difficultés dont je vais vous parler maintenant existent bien sûr dans la théorie de Popper, mais ce sont des difficultés qui concernent de façon plus générale n'importe quel empirisme. On les retrouve de la même manière dans l'inductivisme. Okay ? Mais, et ce sont des difficultés dont Popper était tout à fait conscient et auxquelles il a d'ailleurs entrepris de donner des réponses. Alors, premier point, hein, ça concerne le problème de la base empirique. Et en deux mots, voici de quoi il s'agit. Ben, tout empirisme, qu'il soit inductiviste ou falsificationniste, suppose que ce sont les faits qui permettent de trancher. Okay ? Donc pour Popper, ce sont les faits, les observations, qui permettent de réfuter les théories. Okay ? Mais ces faits d'observation, ces énoncés d'observation qui doivent permettre de réfuter les théories, est-ce qu'ils sont eux-mêmes absolument incontestables ? Est-ce qu'on est certain, hein, est-ce qu'ils sont solides, hein ? Ou bien est-ce qu'on peut, dans certains cas... Bon, excusez-moi. Chaque fois que je fais cours, moi, vous voyez, je bouge beaucoup, tout ça, et puis alors... Ah oui, non, mais ça, je crois que je n'ai pas le choix. Bon, je vais garder ça. Bon, donc est-ce que ces énoncés d'observation que j'utilise pour réfuter mes théories sont absolument fiables ? S'ils ne le sont pas, c'est ennuyeux, évidemment, hein, parce que ça veut dire que j'utilise pour réfuter des théories des énoncés d'observation auxquels je ne devrais peut-être pas faire une confiance aveugle. Et donc, quand un énoncé d'observation va contre une théorie... Je devrais peut-être me demander si ce n'est pas l'énoncé d'observation qu'a tort, vous voyez ? Donc c'est important de savoir dans quelle mesure ces énoncés d'observation sont fiables. Est-ce qu'ils le sont vraiment ? Mais non, dit Popper, c'est vrai. Je ne peux que reconnaître, et c'est un problème pour l'empirisme, vous vous rendez bien compte, évidemment. Hein, si les observations ne sont pas absolument certaines, ben c'est difficile de dire on va les utiliser pour écarter ou pour au contraire conserver des théories. Hein ? Et donc Popper reconnaît qu'effectivement, ils ne sont pas absolument fiables, ces énoncés d'observation. D'abord, pour plusieurs raisons, j'en ai retenu quelques-unes. D'abord, parce que, comme me disent souvent les épistémologues, tout énoncé d'observation est imprégné de théorie. Hein ? Ça veut dire que on n'a pas d'observation absolument pure. Hein ? Si je prends un énoncé d'observation, je reprends un exemple de cet épistémologue dont je vous ai parlé tout à l'heure, Alan Chalmers. Si je prends un exemple d'énoncé d'observation comme celui-ci, la taille de Vénus, la taille de la planète Vénus, vue de la Terre, hein, ne change pas au cours de l'année. Ça, c'est vrai à l'œil nu. Hein. Enfin, donc, pendant tout un temps, on ne s'est pas rendu compte. Évidemment, que vous imaginez bien que la taille de la planète Vénus, la taille apparente de la planète Vénus, change au cours de l'année, puisqu'on n'est pas toujours à la même distance de la planète Vénus, hein, puisque hein, vous imaginez le Soleil, Vénus qui tourne là, et puis la Terre qui tourne plus loin. Eh bien, il arrive de temps en temps que Vénus et la Terre soient beaucoup plus proches qu'à d'autres époques. Okay, donc, mais pendant très longtemps, quand on ne disposait pas d'instruments d'optique, hein, on s'était pas rendu compte que la taille de la planète Vénus changeait au cours de l'année. Et donc, l'énoncé d'observation, hein, la taille apparente de Vénus ne change pas au cours de l'année, a été utilisé pour réfuter Copernic. Vous voyez bien, c'était une tentative, c'était un des nombreux énoncés d'observation qu'on utilisait pour réfuter Copernic. C'est pas, hein, vous voyez, parce que si la Terre, si vous imaginez que la Terre est au centre et que Vénus et tout le reste tournent autour, ben c'est normal que la taille apparente de Vénus ne change pas au cours de l'année, puisque Vénus est toujours à la même distance de la Terre. Okay, alors que si Vénus, comme dit Copernic, Vénus et la Terre tournent toutes les deux autour du Soleil, ben ça dépend évidemment hein, de l'époque de l'année, elles peuvent parfois être très loin l'une de l'autre, parfois très proches. Donc, le fait que la taille apparente de Vénus ne change pas au cours de l'année était un énoncé d'observation, hein, j'observe que... Et un énoncé d'observation qui donnait tort à Copernic. Bon, dans ce genre de situation, vous vous dites, oula, il valait mieux renoncer à l'énoncé d'observation qu'à Copernic. Ah oui, l'énoncé d'observation, comme je le dis là, il est imprégné de théorie. Ben oui, imprégné de quelle théorie ? On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, évidemment. Mais imprégné de cette hypothèse théorique que l'œil est capable d'apprécier correctement la taille des sources lumineuses lointaines. Évidemment, c'est une théorie qui n'était pas explicitée, hein, mais n'empêche que, bah, oui, l'énoncé d'observation, la taille apparente de Vénus ne change pas, contenait aussi cette hypothèse théorique, hein, que l'œil est capable d'évaluer correctement la taille des sources lumineuses. Okay, et on pourrait donner des tas d'exemples. Ça, c'est un exemple très simple. Et en fait, plus vous approchez d'exemples réalistes, plus l'imprégnation théorique de l'observation est importante. Alors regardez, par exemple, je sais bien qu'il y a des physiciens dans la salle, mais regardez, donc ça c'est un cliché de chambre à bulles, là, vous voyez. Bon, alors un physicien, il vous dirait, par exemple, je vais inventer, hein, c'est pas du tout le cas, mais enfin, j'observe ici la création d'une paire électron-positron. J'observe ici, attendez, est-ce que vous imaginez la somme de théories qui est cachée derrière cet énoncé d'observation? J'observe là. Allez, franchement, Donc, évidemment, pour pouvoir dire ça, parce que vous ne le voyez pas, hein, c'est pas un électron, un positron, c'est les traces laissées par. Alors, ça suppose évidemment toute une série de considérations sur la manière dont fonctionne la chambre à bulles, sur la manière dont fonctionne le champ électromagnétique, sur la manière dont les particules élémentaires réagissent au champ électromagnétique. Une somme de théories, mais considérable, hein. Et alors, regardez, ça, c'est encore plus d'actualité, hein. Donc, si je vous dis, vous voyez, là, hein, ça, c'est une manifestation, regardez là, hein. Ça, c'est une manifestation de l'existence du boson de Higgs. Ah, pas besoin de vous faire de dessin, hein. Bon, hein, donc c'est pas. Voyez donc, ça va de soi. Hein. Non, il y a évidemment une somme considérable de théories là derrière cet énoncé qui peut sembler être un énoncé d'observation. Donc tout énoncé d'observation est imprégné de théories. Et donc, si vous acceptez avec Popper que les théories sont toujours conjecturales, restent pour toujours des hypothèses, ben, les énoncés d'observation aussi, puisqu'elles enveloppent des théories, hein, qui sont toujours hypothétiques, okay, qui ne sont jamais démontrées définitivement. Et même au sein donc vous voyez ça, il n'y a pas de vérité primitive, tous les énoncés exigent une justification, tous les énoncés sont faillibles. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois de bonnes raisons de les accepter, encore une fois, mais ces bonnes raisons de les accepter dépendent aussi de toute une série de considérations théoriques et de discussions entre scientifiques. Donc ce que Popper va dire, c'est vrai, les énoncés d'observation sont faillibles, et il faut donc qu'il y ait des discussions entre scientifiques pour savoir lesquels sont fiables, hein, auxquels on peut se fier, et lesquels on peut utiliser pour réfuter éventuellement des théories. Et c'est comme ça que ça se passe entre scientifiques. Hein. Il y a une époque où on disait que les étoiles étaient carrées, hein, et ben, il y a eu toute une discussion pendant longtemps pour savoir si oui, sinon, si cet énoncé d'observation était, si on pouvait le maintenir et le considérer comme fiable, des tas d'autres énoncés d'observation. Et ça, vous voyez, Neurath, c'était un des membres du cercle de Vienne, mais qui, hein, donc lui avait déjà contesté cette espèce d'inductivisme naïf de Carnap en disant ceci, hein, il n'y a aucun moyen pour faire d'énoncés protocolaires, donc les énoncés protocolaires, c'est grosso modo les énoncés de base, hein, définitivement assurés et purs le point de départ des sciences. Il n'existe pas de tabula rasa, nous sommes comme des marins qui doivent reconstruire leur navire au grand large sans jamais pouvoir le décomposer en cale sèche afin de le reconstruire à partir de meilleurs composants. Ça, c'est important. Vous voyez, il y a plein de gens qui croient que la science, il y a des briques comme ça fondamentales, absolument incontestables, qui seraient par exemple les énoncés d'observation. Vous voyez, la science est bâtie sur du roc. Hein, il y a des énoncés d'observation. Et c'est un édifice, hein, comme ça, hein, qui se construit à partir d'éléments primitifs absolument solides. Donc vous voyez, Neurath vous dit non. Hein, il faut plutôt imaginer qu'on est sur un bateau dont on peut modifier finalement toutes les composantes. Et c'est ce que dira aussi Popper, regardez. Ah oui, est-ce que c'est mon... Ah ben zut alors, oui, ça viendra après, excusez-moi. Mais Popper, on verra, reprendra une image qui n'est pas celle du bateau, mais qui est assez semblable à celle-là, qui est celle des pilotis, en disant, la science, l'édifice scientifique n'est pas construit sur le roc, elle est construite sur un marécage, sur des pilotis. Alors, et les pilotis, ce sont les énoncés d'observation. On les enfonce suffisamment profondément pour qu'ils puissent soutenir tout l'édifice théorique. Donc, hein, on s'assure évidemment que ces énoncés d'observation soient suffisamment solides pour soutenir l'édifice théorique. Mais si la théorie, enfin, quand la théorie se perfectionne, on peut être amené à préciser les énoncés d'observation, c'est-à-dire à enfoncer davantage les pilotis, parce qu'on a besoin de quelque chose de plus solide pour maintenir un édifice plus important, vous voyez. Et donc, il n'y a pas de point de départ absolument primitif. C'est intéressant aussi, vous voyez, cette idée que la connaissance n'est pas construite sur un point de départ absolument incontestable, un point de départ absolu, quoi. Vous savez, vous avez eu, je crois, un premier exposé sur Descartes. Descartes est quelqu'un qui cherchait ça, hein, Quelle est une... Je cherche une proposition absolument incontestable. Et puis il a trouvé cogito, quoi. Hein. Allez, de quoi est-ce que je ne peux absolument pas douter? Je peux douter des sens, je peux même douter des propositions mathématiques, mais il y a un truc dont je ne peux pas douter, c'est cogito. Je tiens mon point de départ absolument certain. Est-ce qu'il faut vraiment penser la connaissance comme ça? Ou bien est-ce qu'on peut, avec Popper, par exemple, se dire, mais il n'y a pas de point de départ absolument certain, hein. Ça ne veut pas dire que la science ne progresse pas, mais elle reste toujours... Hein, elle garde toujours le statut d'hypothèse, d'hypothèse éventuellement de mieux en mieux corroborée, hein, qu'on essaie de rendre de plus en plus solide, mais qui ne sont jamais un point de départ incontestable. Et ça, c'est une question qui me semble importante. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'on aurait tort d'observer, et on le fait parfois, et on le fait trop souvent, hein, on aurait tort d'opposer des énoncés de base, certains parce que purement observationnels, et des théories hypothétiques, parce que toujours liées à des interprétations. Alors, vous voyez ce que je disais, la base empirique n'est pas un fondement absolu. Et je vais quand même, je sais bien qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je vais quand même revenir rapidement à l'histoire de l'évolutionnisme et à la classe de la création d'Arunyaya, là. Arunyaya, précisément, va exploiter cette tendance assez spontanée que nous avons à considérer que les faits, c'est du solide, c'est du certain, et les théories, c'est de l'hypothétique. Alors que, comme j'essaie de vous le montrer, les faits sont eux-mêmes, hein, contestables, faillibles, etc. Mais il va utiliser ça, et dans tout son atlas de la création, c'est toujours le même argument qui revient sur des milliers de pages, hein, ceux qui l'ont vu le connaissent, et ça consiste à vous présenter des tas de photos de ce type-là, hein, vous en avez vraiment des milliers, où vous voyez chaque fois un organisme vivant actuellement, hein, vous voyez, c'est une araignée, et puis le fossile. Et ça consiste à vous dire, voyez vous-même, il faut s'en tenir à l'observation. Vous voyez bien que ça n'a absolument pas évolué, que c'est exactement le même organisme dans le fossile et là. Vous voyez bien que ça n'a pas changé. Alors, bon, encore une fois, je n'essaie pas de vous convaincre qu'il y a raison. Hein. Bon, d'abord, c'est pas parce qu'on ne voit pas de façon évidente que ça n'a pas changé, qu'un biologiste spécialiste ne vous dirait pas « Ah, mais si, regardez là, il y avait tel. » Et puis d'autre part, ce n'est pas parce que ça n'a pas changé depuis 25 millions d'années que ça n'a pas changé avant. Donc, bref, je ne dis pas qu'Arunyaya a raison, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment il utilise cette propension que nous avons à penser que l'observation, les faits, c'est du solide, alors que les théories, c'est hautement hypothétique. Et je vous en parle parce que vous avez peut-être entendu parler de ce débat, justement aussi à propos de l'évolution, dont je pense qu'il était vraiment très mal posé. Hein. Vous savez peut-être qu'à une époque, c'est toujours aux États-Unis, il y a des créationnistes qui avaient obtenu qu'on mette un petit avis sur tous les livres du secondaire dans lesquels il était question d'évolution. Et ce petit avis disait ceci: ce livre contient des informations sur l'évolution. L'évolution est une théorie, pas un fait, à propos de l'origine des êtres vivants. Ces informations doivent être abordées avec un esprit ouvert, étudiées soigneusement et considérées avec un esprit critique. Donc, c'est les créationnistes qui avaient voulu mettre ça, hein. Et ça signifiait quoi? Méfiez-vous de l'évolution, ce n'est jamais qu'une théorie, c'est pas un fait. Donc, vous voyez bien qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a d'une part des faits, ça c'est du solide, ça c'est certain. Et puis des théories, bon, ça c'est vaguement fumeux, enfin des théories, bon. Il y a quand même quelque chose là d'extrêmement étonnant quand vous y pensez. Et puis il y a eu tout un débat qui s'est engagé là-dessus, je pense, de façon très, très, très malheureuse, où des biologistes ont dit, mais si, l'évolution c'est un fait, hein, c'est pas du tout une théorie, c'est un fait, c'est démontré. Et les autres disaient, mais non, enfin bon. Enfin, c'était plus compliqué que ça, j'ai écrit un article là-dessus, c'était plus compliqué que ça, parce que finalement, et les créationnistes et les évolutionnistes pouvaient dire ou bien que c'était un fait ou bien que c'était une théorie. Simplement, réfléchissez à ça, hein, au sens de cet argument. Oui, moi je suis scientifique, pour moi l'évolution c'est un fait. Ah non, moi je suis créationniste et pour moi l'évolution n'est qu'une théorie. C'est quand même un peu étonnant, non? Cette espèce de dévalorisation de la théorie. Vous imaginez un physicien qui dirait, bon, la théorie de la relativité c'est jamais qu'une théorie, vous savez. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas de cette manière-là? Pourquoi est-ce que parler de la théorie de l'évolution, ça veut dire, oh, bon, c'est un peu n'importe quoi, alors que personne ne dirait jamais, oh, bon, vous savez, Newton, c'est qu'une théorie, hein. Enfin, la théorie de la gravitation universelle, c'est jamais qu'une théorie. Mais un physicien vous dirait, mais c'est très bien d'être une théorie, c'est une théorie qui a été corroborée de tant de manières différentes, testée, qui est extrêmement solide. Bon, c'est très bien d'être une théorie, enfin, bon, à la limite, pour un physicien théoricien, c'est peut-être mieux que d'être un fait, hein. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux attirer votre attention sur, hein, sur cette idée que il faut pas foncer comme ça, comme sur un chiffon rouge, sur l'idée que ah oui, les faits, ça c'est du solide, et alors que les théories, ça c'est hautement hypothétique. Donc Voilà la citation de Popper, mais comme je n'ai vraiment plus de temps et qu'il faut laisser un petit moment pour la discussion, je ne vous la lis pas. Et je voulais vous parler encore d'une autre difficulté, mais je vais aussi, je vais aussi faire la passe là-dessus. Donc, vous voyez, difficulté du falsificationnisme et de façon générale de l'empirisme lié à la fiabilité, au caractère failli des énoncés d'observation. Autre difficulté, même si vous acceptez que les énoncés d'observation sont bien établis, sont solidement établis. Il y a encore un autre point auquel il faut être attentif, c'est que ces énoncés d'observation ne suffisent jamais à désigner de façon univoque une théorie. Il y a, comme on dit, une sous-détermination empirique des théories. Vous pouvez avoir un ensemble de faits aussi large que vous voulez, il y a toujours plusieurs théories qui peuvent en rendre compte. Okay ? Donc les faits à eux seuls ne suffisent pas pour désigner la théorie qu'il faut conserver ou abandonner. Il y a toujours toute une série de possibilités que Popper examine qui permettent de conserver une théorie, quoi que disent les faits. Ça, c'est un peu étonnant, parce que ça a l'air d'aller à l'encontre de ce que je vous ai dit avant. Quand je vous ai dit, quand un fait réfute une théorie, on abandonne la théorie. Je vous ai dit ça tout à l'heure pour Popper. Popper, c'est plus subtil que ça. Il sait très bien qu'il y a toujours moyen de transformer suffisamment la théorie, d'immuniser la théorie, pour qu'elle s'accommode, si je puis dire, du nouveau fait. Donc, exemple. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on teste une hypothèse, une théorie, on ne teste jamais un énoncé tout seul. L'exemple des signes noirs, c'est juste un exemple d'école, enfin, c'est l'exemple de Popper, mais ce n'est pas réaliste, ça. Quand vous testez quelque chose, vous testez toujours une multitude d'énoncés. Et vous pouvez toujours vous arranger pour déplacer la réfutation sur un énoncé auquel vous tenez moins qu'un autre. Donner un exemple stupide dans un premier temps, et puis un peu moins stupide après, mais l'exemple stupide permet vite de comprendre, surtout pour ceux qui ont été mamans, pour celles qui ont été mamans. C'est que les mères trouvent toujours que leur enfant est magnifique, s'il a des problèmes à l'école, c'est parce qu'il est trop fort, c'est parce qu'il s'ennuie, c'est parce que, vous savez bien, moi je suis mère aussi, donc c'est l'histoire de la mère qui va trouver un psychologue en disant, écoutez, je pense que mon enfant est un HP, comme on dit maintenant, on dit surdoué de mon temps, je pense que mon enfant est un HP, est-ce que vous ne pourriez pas lui faire passer la batterie de test qui pourrait, alors puis le psychologue fait passer les tests et retrouve la maman et lui dit, écoutez, votre gamin est très sympathique, mais bon, il a des résultats tout à fait moyens, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle va dire, la mère? Est-ce qu'elle va accepter que sa théorie est réfutée comme ça, pensez-vous? Non, elle va détourner la réfutation sur une hypothèse auxiliaire en disant, oui, mais franchement, ce psychologue n'a pas su le prendre. D'abord, il était barbu, mon gosse ne supporte pas les barbus. Ensuite, les questions étaient mal formulées. Enfin, bref, vous imaginez bien. Bon, donc ça, c'est un peu caricatural, ce que je vous dis là, mais ça arrive de manière moins caricaturale, cette idée que, pour vous montrer un autre exemple qui montre qu'on teste une multitude d'hypothèses et qu'on peut toujours déplacer la réfutation sur l'une ou l'autre hypothèse, c'est l'histoire de la parallaxe. Ça, la parallaxe, ou plutôt l'absence de parallaxe, c'était un excellent argument contre Copernic. Je vous dis en deux mots de quoi il s'agit. Regardez, si vous supposez que la Terre tourne autour du Soleil, quand vous regardez les étoiles, okay, ces étoiles, vous devez les voir se déplacer par rapport à la voûte céleste. Donc vous voyez bien, parce que évidemment, si vous changez vous-même de place, vous ne les voyez plus sous le même angle quand vous êtes en janvier ou quand vous êtes en juin. Okay, donc par exemple, l'étoile jaune, là vous la voyez dessiner le petit cercle jaune, et puis l'étoile bleue, vous avez compris quoi. Okay, bon, alors ça, donc ce déplacement, en fait, pendant très longtemps, on ne l'a pas observé, on ne le voyait pas, et ça c'était un argument important et solide contre Copernic, évidemment, de dire on ne voit pas cet effet-là, ben c'est donc que la Terre est immobile, parce que si la Terre est immobile, vous n'aurez pas cet effet de parallaxe, évidemment, si vous imaginez que la Terre est immobile. C'est parce que la Terre se déplace que vous voyez ça. Et donc, c'était un excellent argument contre Copernic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Est-ce que ça réfute Copernic? Est-ce que ça réfute Copernic le fait qu'on ne voyait pas de parallaxe? Ben, on pourrait avoir l'impression que, mais en y réfléchissant bien, on peut se dire aussi que, en fait, ce qu'on teste, c'est pas seulement l'hypothèse copernicienne. On teste en plus une autre hypothèse, qui est, par exemple, les étoiles sont suffisamment proches pour que ce déplacement soit visible à l'œil nu, ou soit visible avec les instruments d'optique dont on dispose. Ça, c'est une autre hypothèse qu'on teste en même temps que Copernic. Et ce qu'on a fait, alors, c'est qu'on a dit, ah oui, non, mais c'est pas Copernic qui est fausse. C'est l'autre hypothèse. C'est l'hypothèse hein, qu'on fait que les étoiles sont suffisamment proches pour que l'effet soit visible à l'œil nu. Les étoiles sont en fait beaucoup plus éloignées que ce qu'on imaginait dans un premier temps, et donc cet effet n'est pas visible. Et je vous rassure, enfin, vous le savez sans doute, hein, depuis, on a découvert, enfin, on a pu observer cette parallaxe, ça existe bien, bon, ok. Hein. Mais vous voyez l'idée, vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc, un copernicien pourrait se dire, ah oui, non, mais moi, je n'ai pas du tout l'intention d'accepter de voir ma théorie réfutée. Hein. Je vais essayer de déplacer la réfutation sur une autre hypothèse, et dire par exemple, ah oui, mais c'est parce que les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Vous voyez? Dans ce cas-là, on a envie de dire, ah ben le copernicien, il avait raison. Oui, mais comment savoir dans quel cas on a raison, dans quel cas on a tort, quand on essaye d'immuniser sa théorie? Vous voyez? En fait, ce que fait le copernicien en disant, oui, non, mais c'est parce que les étoiles sont trop éloignées, en quoi est-ce que c'est différent de ce que fait le psychanalyste quand il dit, oh oui, non, mais dans ce cas-là, bon. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment une question importante. Il est toujours possible d'immuniser sa théorie contre la réfutation, mais alors, qu'est-ce qui distingue? Alors, on retombe sur notre question. Qu'est-ce qui distingue la science de la non-science si on peut toujours échapper à la réfutation? Et qu'est-ce qui répond à sa Popper? Il répond, c'est vrai. C'est possible. Théoriquement, c'est possible. Logiquement, c'est possible. On peut toujours protéger sa théorie. Mais un bon scientifique se reconnaîtra précisément à ce qui ne fait pas ça. Il ne joue pas avec ses stratagèmes conventionnalistes. Il n'essaye pas de protéger à tout prix sa théorie. Un bon scientifique, il va accepter la réfutation et il va modifier sa théorie en fonction de ça. Il ne va pas chercher par tous les moyens à protéger sa théorie. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Popper finit par ramener cette distinction science-non-science à une attitude hein, d'un scientifique ou d'une communauté scientifique. Et ça, pourquoi pas? Mais ça, il s'éloigne assez de ce qui était son point de départ et qui était la volonté de trouver une logique de la découverte scientifique. Une logique, ça veut dire qu'il cherchait dans les théories elles-mêmes quelque chose qui permettait de voir si elles étaient ou non scientifiques, et pas dans l'attitude de celui qui les défend. Parce que vous voyez à ce moment-là, si j'ai un psychanalyste critique qui dit « Ah ben oui, c'est vrai dans ce cas-là ben, », alors qu'est-ce qui empêche la psychanalyse d'être une science au même titre que la physique? Si c'est l'attitude du psychanalyste qui fait de sa théorie une science ou une non-science. Vous voyez? Donc, j'aurais voulu vous parler encore un peu plus longuement d'autres tentatives. Je pourrais continuer encore aussi longtemps que ce que j'ai fait. Mais bon, mais je vais en rester là pour vous écouter un petit peu. Mais il y a là une vraie difficulté. Et je pense que Popper en était très largement conscient. Et vous voyez, ramener cette question de la scientificité des théories à l'attitude du scientifique, hein, c'est l'attitude du scientifique qui fait que sa discipline est plus, ou de la communauté qui fait que la discipline est plus ou moins scientifique, est quelque chose qui peut sembler quand même un peu problématique. Et on continuera à vous parler de cette question, qu'est-ce que c'est qui est scientifique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je crois que c'est vous qui terminez en parlant de Feyerabend, donc je ne vais pas anticiper, mais quand même, hein, quand on regarde l'histoire de l'épistémologie, non mais allez, quand on regarde l'histoire de l'épistémologie du XXe siècle, disons, hein, moderne, quoi, hein, je dois vous dire qu'on ne trouve pas, je pense, une seule définition de la science, une seule formulation des critères de scientificité qui n'ait pas été contestée par l'un ou l'autre. Hein. Il n'y a personne qui peut vous donner une définition de la science dont il pourrait dire, voilà, c'est celle-là, et tous les épistémologues sont d'accord. Et Feyerabend dira encore bien pire. Hein. Voilà. Écoutez, je vais en rester là en vous remerciant pour votre attention et en m'excusant d'avoir été si longue. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'emporté par la fougue et la passion, on a vraiment l'impression que ça aurait
pu. Ah ben oui, non, c'est vrai, je vais... Excusez-moi, mais... Hein, mais...
Je prends mon rôle de distributeur de paroles et je la donne à qui la veut.
Et si je vous en proposais une de définition de la science, celle d'Henri Atlan, dans « À tort ou à raison ». La science est un ornement du réel. Que dirait l'épistémologue?
Je trouverais que c'était une très belle définition, mais je vous dirais que ça ne donne pas un critère de scientificité très utilisable qui permet de dire « Ah oui, la mécanique quantique, c'est bien de la science. En revanche, la psychanalyse, ça n'en est pas. » Par exemple, je ne dis pas que je pense ça, mais vous voyez, je trouve que c'est une très belle définition. C'est une définition assez poétique, finalement. Hein. Je voudrais voir aussi ce qu'il entend par là. Et j'imagine que ça vient... J'ai lu pourtant Atlan, mais il y a longtemps. Je ne me souviens plus de ce qui l'amène à dire ça. Hein. La science est un ornement du réel. Enfin, vous pouvez me préciser un petit peu ce qui...
Mais il parle de la modélisation et que tout est souvent basé sur le modèle.
Oui.
Dans vos scientifiques, tout se passe comme si. Mais donc, c'est comme si. Mais est-ce que c'est plus que comme si?
Non, non.
Un ornement.
Ah oui, non, d'accord, ok. Que tout se passe, que la science est faite à partir de modèles, ça je pense que c'est très vrai, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure à propos de Galilée. Vous voyez, Galilée, il ne parle pas du phénomène chute des corps dans toute sa complexité, il parle d'un modèle particulier de chute des corps, un modèle qui est toujours une simplification par rapport à la réalité. Mais, la science fonctionne comme ça, et je pense, ne peut fonctionner que comme ça. Si vous voulez étudier un phénomène, vous êtes bien obligé de le modéliser et d'étudier un modèle. Vous ne pouvez pas étudier n'importe quel phénomène, je veux dire, de la nature. Il est lié d'une manière extrêmement complexe à tous les autres. Vous êtes bien obligé, si vous voulez faire de la science, de découper une partie du réel par rapport à l'ensemble et d'étudier cela. Donc, de ce point de vue-là, ça, je serais d'accord. Mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose. On peut réfléchir sur cette définition et bon, ça prendrait plus de temps que ce dont je dispose ici. Mais je pense que c'est pas une définition en tout cas qui me donne un critère de scientificité. Vous voyez, parce que je pourrais vous dire aussi, la poésie c'est un ornement du réel, quoi. Il y a d'autres choses que la science dont je pourrais dire c'est un ornement du réel. Voilà. Et donc je crois que ça ne répond pas vraiment à la question que se posent les épistémologues, style Popper, en fait, qui eux voulaient vraiment un critère de scientificité. Mais c'est une très belle définition. Enfin, voilà, si vous me demandez mon avis, je pourrais vous dire ça.
Question suivante.
Oui. Bien, votre exposé appelle de mon chef, du moins, de nombreuses remarques. Alors, je vais peut-être juste commencer par une petite remarque d'ordre historique. D'après Whitefall, dans la superbe biographie de Newton, Never at West.
Ah, oui,
je
ne
parle
je
pas
bien.
De son horrible traduction française. Oui. L'histoire de la pomme semble avérée. Bon, ça, c'est un détail, c'est factuel. J'en reviens.
Oui, mais excusez-moi. Oui, que l'histoire. Enfin, je reviendrai dessus après, mais oui, allez-y.
Je n'y étais pas. Je cite Whitefall. Je ne me prétends pas historien des sciences. Par contre, je me prétends, dans une certaine mesure, scientifique. Alors, pour faire très schématique. La théorie des signes blancs, pour moi, n'est pas une théorie. Mm-hmm. Par contre, des prédictions de la physique, de la mécanique quantique, c'est une théorie. Qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre? Vous avez fait une très brève allusion dans votre exposé, mais vous avez évacué le problème. Mm-hmm. C'est le cœur des mathématiques qui est sous-jacent à cette théorie, sur lequel elle s'appuie fondamentalement et qui conduit non seulement à expliquer des phénomènes, mais surtout à une certaine prédictabilité. Ce qui fait le succès, à mon sens, de la théorie d'Einstein, c'était non pas l'avance du périmètre-mercure qui était connu, mais c'était d'autres phénomènes, comme par exemple le décalage des fréquences qui est utilisé dans les GPS, ou encore le rayonnement à 3 degrés Kelvin que si Einstein n'a pas trouvé, Gamow et d'autres l'ont trouvé. Le problème qu'on critique vis-à-vis de la théorie des corps, je ne vois pas très bien où il se situe. Vous l'avez mentionné, peut-être pourrez-vous le développer. Pour ma part, je suis un praticien à la théorie des corps. Mmh. Scientifiquement, on s'entend. C'est une théorie mathématique qui recouvre le champ de la théorie d'Einstein, donc je n'y vois pas de problème majeur. Sinon, peut-être qu'elle prédit des phénomènes qui aujourd'hui ne rentrent pas dans le champ d'expérience, mais là, c'est un problème d'ingénieur, ça n'est plus un problème de scientifique. Donc, pour faire bref, je dirais que pour moi, une théorie, c'est quelque chose qui s'appuie sur la logique des mathématiques et qui conduit à des prédictions qui seront avérés ou réfutés ultérieurement.
Oui, ok. Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous dites, évidemment, je ne vais pas répondre à tout. Alors, en ce qui concerne la pomme, la question n'est pas de savoir est-ce que vraiment Newton a médité à partir de cet exemple de la pomme. L'exemple de la pomme est intéressant quand même au moins pour une chose, et ça, Newton dit clairement que c'était pour lui une de ses réussites. Hein, c'est que... ce qui est extraordinaire, c'est de se dire ce qui fait tomber la pomme, c'est la même chose que ce qui fait tourner la Lune autour de la Terre. Hein. Et ça, c'est vraiment une réussite extraordinaire. Pouvoir se dire des phénomènes qui ont l'air aussi différents que ça, hein, une pomme qui tombe et puis la Lune qui tourne autour de la Terre, finalement, c'est la même loi. C'est une réussite extraordinaire de la science de pouvoir rassembler des phénomènes aussi différents, hein, à partir de la même loi. Alors que jusque-là, évidemment, la description des raisons pour lesquelles tombaient les pommes était tout à fait différente, hein, des raisons pour lesquelles la Lune tournait autour de la Terre. Hein, chez Aristote, évidemment, ça n'a rien à voir, ces deux mouvements-là. Et donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette histoire de pommes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'idée est que Newton, naïvement, a regardé autour de lui les pommes et s'est dit « Ah !» Gravitation universelle, tous les corps s'attirent avec une force proportionnelle aux masses, inversement proportionnelle, etc. Bon, il ne faut pas rire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Il n'a pas eu l'idée de l'expression de la loi. Si vous avez lu cette biographie de Westphal, vous savez bien que c'était quand même. Donc c'est simplement ça que je voulais dire. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas que cette anecdote.
La pomme, parce que ça, c'était
Non. Enfin bon, bref, voilà. Alors il y a ça. Alors, oui. Ensuite, attendez, l'exemple, il y a l'histoire des mathématiques, mais avant ça, il y avait les signes, oui, c'est ça. Alors bon, les signes, évidemment, c'est un exemple. Enfin, Popper, qui lui-même connaissait bien la physique, hein, n'a pas l'impression que dire tous les signes sont blancs, c'est une théorie scientifique révolutionnaire, intéressante, etc. Donc simplement, pourquoi est-ce qu'il utilise ça? Simplement pour montrer, c'est un cas purement scolaire, quoi, hein, pour montrer qu'on ne peut pas démontrer une proposition universelle à partir d'une série d'observations. Là, ce n'est présenté que comme une proposition universelle qui pourrait sembler reposer sur une multitude d'observations. Il sait très bien que ce n'est pas ça, évidemment, les vraies théories scientifiques intéressantes et les théories scientifiques auxquelles il veut vraiment appliquer son critère, c'est évidemment celle que vous citez, la théorie de Newton, la théorie d'Einstein, etc. Alors maintenant, ce qui est essentiel, c'est l'introduction des théories mathématiques. Alors là, ça c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que c'est si évident que ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire une théorie scientifique, c'est une théorie qui utilise les mathématiques? L'astrologie, somme toute, utilisait très bien les mathématiques, hein. Et elle a d'ailleurs développé les mathématiques, ça a été utile à l'astronomie. Bon, vous ne croyez pas que...
Mais ce n'est pas ce que j'ai dit.
Oui, mais... Non, c'est quoi alors que vous avez dit?
Sur base des mathématiques.
Oui, mais leurs mathématiques leur permettaient... Oui, non, ben non, je vois bien. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que le caractère mathématique d'une théorie ne suffit pas à établir son caractère scientifique. Voilà. Alors maintenant, il y a autre chose, il y a le caractère prédictif. Ça, c'est vrai qu'on pourrait dire, ben finalement, ce qui compte, c'est le caractère prédictif. C'est ça qui définit la science. Pourquoi pas? C'est la définition des positivistes, vous le savez sans doute, hein. Donc, c'est de dire, ben, la valeur d'une théorie, elle est directement liée à sa puissance prédictive. Et si deux théories prédisent exactement la même chose, tout compte fait, elles sont équivalentes. Alors, ça, c'est vrai, il y a des gens qui disent ça. Enfin, je veux dire, il y a des philosophes qui sont tout à fait d'accord avec ça. Ceux qui ne sont pas d'accord disent, mais attendez, parfois, des théories ont une puissance prédictive, d'une certaine manière, pour de mauvaises raisons. Somme toute, Ptolémée, ça avait une puissance prédictive qui n'était pas nulle, hein. C'était à peu près aussi bien que Copernic, hein. Il avait une puissance prédictive intéressante, hein. Bon, il fallait mettre des tas d'épicycles, etc. Bon, ok, vous allez me dire, ouais, mais c'était pas très élégant, certes. Mais ça avait une puissance prédictive. Ils vous disaient quand même où ils allaient trouver Saturne, etc., dans le ciel la nuit suivante. Voilà. Donc, je suis pas sûr que la puissance prédictive... Alors, franchement, vous trouvez quand même que Copernic, c'est mieux. Non, c'est quand même...
Ptolémée, c'est la numérotation des timbres de la collection de Rutherford.
Oui. Non, d'accord, mais ça avait quand même une puissance prédictive.
Oui, mon catalogue de timbres...
Non, mais là, ça avait une puissance prédictive sur l'observation, hein. Donc, votre catalogue de timbres, c'est un peu une puissance prédictive sur le prochain timbre que vous allez trouver. Donc, ça vous permettait de dire Vénus se trouve à tel endroit demain. Et c'était vrai. Et on pouvait observer. Donc, pas sûr que la puissance prédictive, on peut quand même continuer à le dire, hein, mais c'est pas si évident que ça, que la puissance prédictive est un critère de scientificité. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai parlé des mathématiques peut-être trop vite, hein, c'est vrai, mais j'en ai parlé dans un sens différent de celui que je crois que vous proposez. C'est vrai, il y a les mathématiques comme outil pour la physique, hein, il me semble que c'est un peu de ça que vous parlez, ou comme outil pour la science. Et moi, je parlais tout à fait d'autre chose, mais je ne sais pas si le sujet vous intéresse ou pas du tout, mais les mathématiques qui n'ont pas le statut de science empirique, c'est quand même un autre statut épistémologique. Je veux dire, on ne fait pas des observations pour démontrer une théorie mathématique, hein, on fait des démonstrations mathématiques avec comme contraintes des contraintes logiques, quoi, hein. Bon, voilà. Alors, la théorie des cordes. Alors, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la théorie des cordes, même si j'ai fait un mémoire de licence jadis sur les supersymétries, mais bon, donc je ne suis pas du tout une spécialiste de la théorie des cordes. Et ce que je vous dis, c'est que en lisant des ouvrages de physiciens, hein, je constate que certains d'entre eux s'interrogent sur le caractère scientifique de cette théorie. Voilà. Et pourquoi? Ben, en disant, mais... C'est une théorie qui pour laquelle il y a tellement de paramètres qu'on peut faire varier que on se demande à la limite quelle observation ne pourrait pas rentrer dans cette théorie. Hein, comment on pourrait pas avoir au moins une des formes des théories des cordes, parce qu'il y en a beaucoup, vous savez, hein, et il y en a au moins une qui ne rendrait pas compte de ça. Bon, voilà, donc tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a des physiciens qui disent comme vous, non, la théorie des cordes, c'est nettement scientifique, mais je constate, et c'est une constatation, je ne vais pas vous dire que j'ai été convaincu en regardant la théorie elle-même, hein, je ne la connais pas, mais je constate que les physiciens qui travaillent dans ces domaines-là, eux-mêmes, ne sont pas d'accord sur le statut épistémologique de cette théorie. Voilà.
Oui. Je vais juste 30 secondes, une dernière remarque. Il n'y a pas beaucoup de théories des cordes, il y a une théorie des cordes,
Enfin, ça dépend comment on les compte. Enfin bon, ok.
Mais qui admet beaucoup de solutions, ce qui est un autre problème.
Oui, non, non, c'est ça.
Le monde dans lequel nous vivons correspond à une des solutions, et c'est vrai qu'il y a énormément...
Oui, non, non, c'est ça. Enfin, oui, les ouvrages dont je parle définissent autrement le nombre de théories, mais comme vous dites, ok, voilà, et donc pour eux... Alors maintenant, ce que vous disiez, ça c'est vrai... Et ça, c'est si on dit, oui, pour le moment, on ne peut pas les tester parce qu'il faudrait atteindre des énergies qu'on ne peut pas atteindre pour le moment. Ça, c'est un problème d'ingénieur. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est ce qu'aurait pu dire Popper, effectivement, en disant, allez, on peut imaginer une situation où on pourrait les tester. Peut-être pas maintenant, mais ça ne fait rien. Le simple fait qu'on puisse les imaginer suffit à dire que c'est réfutable. Donc ça, c'est vrai que s'il n'y avait que ce problème, si je puis dire, d'ingénieur, pour reprendre votre expression, ben, un popérien dirait, en effet, hein. Voilà. Mais voilà, il y a des physiciens qui vous disent qu'il n'y a pas que ce problème-là.
J'ai une question aussi.
Oui.
Oui. Est-ce que la théorie des cohortes est capable de fournir elle-même un moyen de la falsifier ?
Vous me posez la question ?
Ben, peut-être aux spécialistes. Est-ce que ce n'est pas là le problème ? Et ça n'a pas été aussi le problème de la mécanique quantique à un certain moment, c'est qu'elle ne pouvait pas produire un énoncé. Qui permettait de la falsifier.
Ah oui, donc est-ce qu'elle est irréfutable ? C'est ça que vous me demandez.
Oui, oui. Donc, écoutez, elle fournit elle-même le moyen de la réfuter, comme la théorie d'Einstein. Et, je crois que Popper aimait bien la théorie d'Einstein.
Oui, non, tout à fait, parce qu'il dit...
Einstein fournissait lui-même le moyen de falsifier.
Ah oui, mais pour lui, toutes les théories scientifiques fournissent les moyens de fournissent elles-mêmes, vous dites, les moyens de les réfuter, c'est-à-dire...
C'est le cas de la théorie des
cohortes. Alors, je reviens à ce que... Je ne peux que répéter ce que j'ai dit. Non, je ne peux que revenir à ce que j'ai dit à monsieur. Moi, je n'ai pas une connaissance de première main de la théorie des cordes, donc je ne peux pas vous le dire. Hein. Je ne peux que constater que parmi les physiciens qui sont spécialistes de cette théorie, il y en a qui disent qu'elle n'est pas réfutable. Et puis il y en a d'autres qui disent, comme monsieur, que si. Voilà. Donc moi, personnellement, n'étant pas spécialiste de la théorie, je ne peux pas vous trancher entre ces deux attitudes de spécialiste. Maintenant, il y a quand même quelque chose sur quoi je voulais revenir, qui me semble intéressant dans votre question quand vous dites... Einstein, il donnait lui-même les moyens d'être réfuté. Alors, ce qui est intéressant hein, pour Popper, c'est de voir que plus une théorie est précise, plus elle est réfutable. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Ça, au moins, je voudrais que vous sortiez d'ici en ayant bien compris pourquoi, pour Popper, c'est précieux d'être réfutable. On pourrait avoir l'impression que, ben non, c'est pas du tout précieux, que plus on est solide, plus on est bétonné, plus c'est intéressant. Pour Popper, au contraire, plus on est réfutable, plus on est intéressant. Et une des raisons pour lesquelles plus on est réfutable, plus on est intéressant, c'est que plus on est précis, plus on est intéressant, plus on est réfutable. Vous voyez, plus vous êtes précis, plus vous êtes réfutable. Si vous faites dans les prédictions, pour revenir à la puissance prédictive de monsieur, là, si on dit telle quantité, je prévois qu'elle sera comprise en 10 et 100. Ben, évidemment, vous prenez beaucoup moins de risques que si vous dites je prévois qu'elle sera comprise en 10 et 10, 0,1. Vous voyez ? Donc plus je suis précis, plus je prends des risques. Plus je risque d'être réfutable. Donc là, on comprend bien que, effectivement, alors qu'on pourrait se dire, oui, mais est-ce que c'est si bien que ça d'être réfutable ? Mais oui, plus vous êtes précis, plus vous êtes réfutable. Plus vous êtes général, plus vous êtes réfutable aussi. Si vous dites, moi, ma théorie, elle vaut juste dans ce contexte-ci très particulier, hein, vous prenez moins de risques que si vous avez vraiment une théorie universelle. Vous voyez ? Mais ça, j'ai répondu tout à l'heure.
Non, c'est de la philo.
Mais...
Ben,
c'est pas que la question n'est pas pertinente, vous pouvez.
Non.
Vous pouvez poser la question, évidemment, dire est-ce que la philo ne devrait pas avoir un contenu empirique comme la physique ou comme la biologie ? Bon, Popper pensait que non. Personnellement, je pense aussi que non. Je veux dire, c'est autre chose. La science empirique décrit le monde, décrit la nature. La philo a une autre fonction. Et pendant longtemps, en fait, la science a prétendu. La philosophie a prétendu décrire le monde. Hein. Pendant très longtemps, la philosophie, c'était synonyme de connaissance, c'était le tout de la connaissance. Bah, d'ailleurs, le grand livre de Newton, les Principia Mathematica, Philosophiae Naturalis, hein, principe mathématique de la philosophie naturelle. Donc, Newton, il appelle encore ce qu'il fait de la philosophie naturelle. Hein. Donc, pendant très longtemps, la philosophie a prétendu être l'ensemble de la connaissance et les différentes sciences ne s'en sont détachés que petit à petit. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, je crois que ce serait particulièrement arrogant de la part de la philosophie que de prétendre avoir un mot à dire sur le contenu même des théories scientifiques. C'est un autre métier, quoi. Et donc, ce que dit le philosophe, ben, comme je veux dire comme des tas d'autres disciplines, ne porte pas directement sur la nature elle-même. Hein. Et donc, la philosophie, je crois, n'a pas de contenu empirique. Et donc, elle n'a pas à être réfutable. Il fait une proposition. Vous pouvez trouver ça utile. Vous pouvez trouver, voilà. Mais je comprends, je comprends. Évidemment, c'est quelque chose qu'on lui a souvent, enfin, c'est une question qu'on lui a souvent posée, hein. Et quoi? Votre histoire, là, si c'est pas réfutable, alors finalement, quel est l'intérêt? Mais, oui, voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme, c'est une tentative d'interprétation que vous pouvez trouver plus ou moins juste, plus ou moins intéressante, plus ou moins, fructueuse, mais qui n'a pas à être, réfutable, selon Popper. Voilà.
Je vais de l'autre côté de la salle.
Merci beaucoup de votre exposé. À la fin de votre exposé, j'ai cru comprendre que la démonstration logique de Popper aboutissait en quelque sorte à la conclusion que ce qui définissait un scientifique était aussi sa bonne foi, sa volonté de ne pas abuser de la protection de ses hypothèses. Alors à quoi cela renvoie-t-il? Comment se sort-il? Ou a-t-il cherché à se sortir de cette conclusion? Ou est-ce qu'on va à ce moment-là vers une vision plus sociologique de la définition des sciences, de ce qui est acceptable dans une communauté donnée?
Oui, alors là, je crois vraiment que Popper aurait résisté. C'est vrai que je dis ça, et c'est vrai que c'est une réponse qu'il donne effectivement, hein, en disant un vrai scientifique ne fera pas ça. Alors, pour lui, vraiment, c'est très clair que ce qu'il veut faire, c'est donner une définition de la science objective, c'est-à-dire de la manière dont fonctionnent les théories, indépendamment, justement, des caractéristiques des scientifiques. Et tout le... toute la tradition de sociologie des sciences qui se développe aujourd'hui et qui est extrêmement féconde pour le moment, hein, est assez étrangère en fait à la manière de penser de Popper, qui dit clairement que lui, vous voyez, il fait une logique de la découverte scientifique, pas une psychologie du savant. Hein. Et donc, c'est un peu à son corps défendant. Quand je lui dis ça, je ne suis pas sûre qu'il est très content de ce que je dis de lui. Quoi. Vous voyez, quand je termine cet exposé, enfin, je n'avais pas prévu que ce serait la fin, hein, j'avais encore plein de choses à vous dire, mais enfin, vous voyez, quand je termine l'exposé en vous disant, finalement, Popper en vient à définir la science par rapport, en fonction de l'attitude du scientifique, je pense qu'il n'aurait pas été, d'accord avec moi, vous voyez. C'est vrai qu'il donne cette réponse-là, et il me semble qu'on peut en tirer ce que je dis, hein, mais c'était pas ça, son souhait, c'était pas ça, quoi. Il insiste beaucoup, hein, sur le caractère tout à fait objectif des théories scientifiques. Il a développé une théorie dont je n'ai pas du tout parlé ici, mais qui est intéressante, et si vous êtes étudiant en sciences ou en philo, la théorie des trois mondes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler des différents mondes de Popper. Donc, il vous dit, en fait, il y a bien sûr le monde où il y a des chaises, des tables, des arbres, etc., quoi, hein. Et c'est une théorie qui est exposée dans un des articles qui se trouve dans un petit bouquin, vous voyez, livre de poche là, sur la connaissance objective, que j'ai projeté tout à l'heure dans la collection Champ-Flammarion. Hein. Et donc, premier monde, le monde des chaises, des tables, des arbres, etc., le monde physique. Bon, okay. Et puis alors, il y a le monde des croyances, des attitudes psychologiques, etc. Hein, ça, c'est un deuxième monde. Okay. Et puis, il y a, dit-il, un troisième monde qui est indépendant, qui a une certaine autonomie. Il insiste beaucoup sur l'autonomie de ce troisième monde par rapport aux croyances, au savoir, etc., aux connaissances des hommes. Okay. Et ce troisième monde, c'est le monde des vérités scientifiques, des théorèmes mathématiques, etc. Et vous dites, bien sûr, c'est une production des humains. Les théories scientifiques, c'est pas comme les chaises et les tables, quoi. Hein. C'est une production des humains, ça c'est vrai. Mais après, ce monde a une certaine autonomie par rapport aux humains. Vous voyez, les nombres naturels, ils n'existent pas comme ça. Hein. C'est une production des hommes. Mais après, les propriétés des nombres naturels, hein, les propriétés des nombres, ça, elles sont, d'une certaine manière, elles échappent en quelque sorte à celui qui a fabriqué la suite des nombres et qui ensuite peut découvrir certaines de leurs propriétés. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc pour lui, vous voyez, il y a tout ce monde objectif, le monde des vérités mathématiques, mais aussi des propositions physiques, etc., qui est pour lui indépendant, qui doit avoir des caractéristiques, et qu'il entreprenait de décrire indépendamment de ce que sont les croyances des gens. Voyez, par exemple, il s'oppose tout à fait, parce que j'ai vu dans la liste des conférences de ce cycle-ci, que bon, on passait de Descartes je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait Descartes. Ah oui, Auguste Comte, Popper, Kuhn, etc. Mais Descartes est assez singulier dans cette histoire, parce que la question de Descartes, c'est vraiment de quoi est-ce que je puis être certain? Sa question, c'est celle de la connaissance et de la croyance et de la certitude, qui sont des attitudes, en fait, psychologiques. Vous voyez? De quoi est-ce que moi je suis certain? Mais Popper, il se pose pas du tout cette question-là. Je m'en fiche d'être certain ou pas certain. Hein, quelles sont les caractéristiques des théories scientifiques elles-mêmes comme objet qui sont ce qu'elles sont, indépendamment du fait que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, là, je vais un petit peu vite et sur un thème qui aurait mérité à lui seul une conférence entière et qui est... voilà.
Oui.
Merci beaucoup, madame, pour votre conférence. Voilà, j'aurais souhaité savoir... Je suppose que Propert accordait quand même beaucoup de crédit au hasard.
Ah oui, ça, c'est encore une autre question.
Oui, parce que, s'il accorde beaucoup de crédit au hasard, puisqu'il réfute le fait que, déjà, de l'empirisme même, qui donne une possibilité de réfuter l'empirisme et de réfuter l'induction également, forcément, il doit faire un grand crédit au hasard. Dès cet instant, je suppose que le fait de pouvoir amener une théorie tombe automatiquement au point de vue scientifique. La théorie, le fait de tirer une théorie à la suite de l'empirisme ou de l'induction devient pratiquement impossible, puisqu'il faut toujours revoir les données, les faits.
Oui, non. Alors, c'est vrai. Non. Alors là, de nouveau, ça aurait pu faire l'objet d'une conférence. Parce que Popper a aussi écrit effectivement sur l'indéterminisme. Hein. Alors ça s'appelle l'univers irrésolu, la traduction française, je pense. Et où il défend effectivement l'existence d'une forme d'indéterminisme. Alors, alors bien sûr, pour lui, c'était lié, comme vous l'avez bien vu, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de vérité définitive. C'est sûr, c'est un des grands thèmes de Popper. Il faut renoncer à cette idée de la vérité avec un grand V. Voilà. La vérité avec un grand V ne peut exister que dans les dogmes, c'est pas le lieu de la science. Voilà. Oui. Enfin, merci.
En fait, c'est moins une question qu'une observation qui m'est venue à l'idée lorsque vous avez dit le bon scientifique, d'après Popper, est celui qui n'essaye pas de protéger sa théorie contre l'observation. En fait, ça me rappelle une citation que j'ai entendue dans un livre qui disait « En fait, la plupart des scientifiques, c'est le contraire. Lorsqu'ils se trouvent devant une réfutation, ils la dépassent par de nouveaux axiomes dans leur théorie. Ce qui fait que la plupart des théories, comme il dit, ne meurent pas par la réfutation, mais parce qu'elles deviennent obèses. En fait, elles deviennent inexploitables parce qu'elles deviennent beaucoup trop complexes et finalement, elles répondent à tout sans plus y répondre à rien. »
Non, mais ça, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites là. Mais bon, malheureusement, encore une fois, ça nécessiterait une demi-heure de réponse. J'ai quand même essayé de répondre de façon un petit peu synthétique. Bon. Bien sûr, hein, parmi les objections qu'on peut faire à Popper, c'était ma troisième objection, mais j'ai pas eu le temps d'en parler. Mais ça ne correspond pas vraiment. Enfin, en tout cas, la description naïve du falsificationnisme ne correspond pas à ce qui se fait dans l'histoire des sciences. Exactement comme vous le dites, quand un scientifique rencontre une réfutation, c'est très rare qu'il jette sa théorie en se disant bah oui, non, tout compte fait, je vais faire autre chose. C'est extrêmement coûteux de changer de théorie. Quelqu'un qui a très bien montré ça, c'est Kuhn. Vous allez en entendre parler dans un mois. Je crois le prochain exposé, c'est mon collègue Michel Gass, hein, qui vient de parler de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, contre, dans une certaine mesure, effectivement, contre Popper, va insister sur la nécessité pour le scientifique d'avoir foi dans ce qu'il appelle son paradigme, et disons sa théorie en gros, et d'essayer de la sauver, de la protéger, de la maintenir, hein, et de la modifier suffisamment pour qu'elle puisse alors absorber l'effet, comme vous dites. Allez. Et alors, c'est vrai de Kuhn, c'est vrai aussi d'un élève direct de Popper qui s'appelle Lakatos, hein, qui a développé une version sophistiquée de Popper qui va tout à fait dans le sens que vous dites. Et où il dit, ce qu'il appelle des programmes de recherche qui sont des espèces de cadres théoriques généraux, sont constitués de deux parties. Il y a d'abord les hypothèses centrales, hein, le noyau dur, ce qu'on n'a pas l'intention de réfuter. Vous voyez, là, il va contre Popper. Hein. Il dit, il y a toujours dans les théories quelque chose que les scientifiques n'ont pas du tout l'intention de tester. Hein. Ils vont s'y tenir quoi qu'il arrive. Et puis, il y a toute une ceinture protectrice, hein, toute une série d'hypothèses que le scientifique est prêt à modifier s'il faut pour maintenir son noyau dur. Exemple, hein, Newton. Ça, c'est une réussite magnifique de Newton, quoi. Hein. On a découvert que la trajectoire d'Uranus n'est pas tout à fait ce que prévoyait Newton. Ok, c'est une histoire bien connue. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit Newton s'est trompé, ok, faisons autre chose, essayons de trouver autre chose. Non. On se demande, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer? Hein, on a l'impression donc qu'on a une réfutation de Newton. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, hein, cet écart de la trajectoire d'Uranus par rapport à ce que prévoyait Newton? Ah! Si on fait l'hypothèse qu'il y a une planète derrière, hein, qui a telle masse, hein, telle trajectoire, on pourrait expliquer que, cette planète-là, hein, c'est l'histoire de la découverte de Neptune, hein, qui a été donc anticipée par la théorie. C'est un résultat magnifique quand une théorie est capable d'anticiper sur l'observation. Hein. Donc, ok, on voit, en regardant la trajectoire d'Uranus, on fait l'hypothèse que, pour l'expliquer, il faut supposer l'existence d'une planète là derrière, qui suit, alors là, parfaitement les lois de Newton. Hein. Vous voyez, si on fait l'hypothèse de cette planète-là, on va retrouver exactement les lois de Newton, et on va d'une certaine manière, là, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on immunise la théorie contre la réfutation? Vous dites, mais c'est tellement beau, c'est une réussite tellement magnifique. Allez, là, évidemment que les scientifiques ont eu raison de refuser, hein, de ne pas s'en tenir à la réfutation, d'essayer de protéger Newton. En tout cas, les hypothèses centrales qui sont le F égale ma et l'expression de la force gravifique, quoi, hein, et de changer la ceinture protectrice dans laquelle il y avait, par exemple, le nombre de planètes dans le système solaire. Vous voyez? Donc, ça, et alors, on vous dit, c'est comme ça que ça se passe. Mais Popper est bien conscient de ça, hein. Il vous dit, oui, non, ok. Ça, c'est une belle modification. Dans ce cas-là, on doit accepter, évidemment. Qui dirait, ah non, on a eu tort de faire cette hypothèse-là, hein. On doit l'accepter. Parce que, alors, qu'est-ce qu'il dit Popper? Mais dans ce cas-là, vous voyez, l'hypothèse, il existe une planète supplémentaire, rend la théorie encore plus réfutable, parce que ça ouvre la possibilité, hein, de faire de nouveaux tests. Et donc, Lakatos vous dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, la science. C'est pas comme Popper le dit, hein, on ne peut pas dire qu'un scientifique va abandonner sa théorie dès qu'elle est réfutée. Ce serait catastrophique. Franchement, quand Copernic a été proposé, mais c'était réfuté par des tas d'observations. Hein, c'était réfuté par l'absence de parallaxe, on a vu, c'était réfuté par le fait qu'on se dit, mais enfin, on voit quand même bien que cette Terre ne bouge pas, enfin, on a toutes les raisons de penser que la Terre ne bouge pas. Quand je fais du vélo, je sens déjà le vent, alors là, franchement, là, je sens rien, quoi, hein. Comment est-ce qu'on peut, alors si la Terre est en mouvement, est-ce que, quand je saute, hein, même, parce qu'elle va vite, hein, la Terre, hein, et si, quand je saute, je devrais me retrouver bien plus loin. Là, on dit, ouais, non, mais tout ça, on a expliqué, on sait bien, hein, oui, mais on l'a expliqué après Copernic, hein. C'est Galilée qui a expliqué pourquoi, hein, l'argument, on disait l'argument de la tour, pourquoi quand je lance une pierre du haut de la tour, elle tombe au pied de la tour, même si la Terre est en mouvement. Hein. Donc, toutes ces observations-là, qui certes ont été expliquées par la suite, pouvaient apparaître à l'époque de Copernic comme des réfutations de Copernic. Hein, il y en avait plein. Hein. On dirait, mais si vraiment la Terre est en mouvement sur elle-même, on devrait être éjecté comme d'un manège. Enfin, bref, il y avait plein d'arguments contre Copernic. On a eu raison de ne pas abandonner Copernic. Hein. Bon, et donc, Lakatos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on regarde l'histoire des sciences, exactement ce que vous dites, à vrai dire, hein, si on regarde l'histoire des sciences, ce que fait un scientifique, c'est qu'il accommode sa théorie avec les faits. Et comme vous dites, il ajoute des hypothèses. Mais, et quand vous dites, elle meurt de temps en temps parce qu'elle est trop obèse. Ça, c'est vrai, ça va pendant un temps. Mais quand même, à un moment où on regarde l'évolution à long terme de la théorie, et on se dit, mais cette théorie, finalement, elle devient de plus en plus artificielle, hein, elle devient... Ça devient de plus en plus coûteux de la faire correspondre aux observations. Peut-être qu'il serait temps de l'abandonner. Donc, vous voyez, Lakatos, il vous dit, il n'y a pas ce moment d'expérience crucial, hein, où on pourrait dire, ah, voilà, ici, il y a une réfutation, en une seule observation. Hein. Ce que vous dit Lakatos, c'est qu'on a toujours une décision à long terme. Une décision à long terme. Et il arrive alors qu'on abandonne un programme de recherche, y compris le noyau dur. Donc, par exemple, on parlait de Ptolémée tout à l'heure et de tous ses épicycles, hein. Pendant très longtemps, on a gardé Ptolémée, Terre immobile, les planètes, le Soleil, tout tourne autour de la Terre. Et quand ça ne collait pas avec l'observation, on ajoutait un épicycle, vous voyez, hein, bon. Et puis, il fallait de plus en plus d'épicycles, parce que comme les observations devenaient de plus en plus précises, on était obligé, bon. Et il n'y a pas de moment, vous voyez, où on peut dire, ah, maintenant, c'est réfuté. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais c'est d'une complication incroyable, quoi. Au bout d'un temps, vous voyez, elle est devenue obèse, comme vous dites. Et est-ce que la théorie Copernic, qui explique quand même de manière plus naturelle le mouvement rétrograde des planètes, etc., est-ce qu'elle n'est pas préférable? Vous voyez? Et donc, c'est vraiment ce que vous dites. Donc, voilà, je ne peux que vous remercier de me suggérer de faire en quelque sorte la fin de l'exposé que je n'ai pas eu le temps de faire. Enfin, bon. Mais oui, bien sûr. Dans les faits, ça... Alors, vous verrez, mais je ne vais pas anticiper sur ce que va dire mon collègue, mais vous verrez que chez Kuhn, hein, il va faire de ce caractère non critique et presque dogmatique du scientifique, en période en tout cas de science normale, une qualité, contrairement à Popper, en disant il faut que le scientifique travaille dans un paradigme sans le remettre en cause. Si le scientifique mettait sans cesse en cause son paradigme, il n'avancerait pas. Hein, ce qui lui permet de l'explorer dans les détails et d'en faire apparaître vraiment les faiblesses, c'est que justement, son attitude spontanée, c'est de ne pas le remettre en cause. Enfin, vous verrez tout ça. Enfin, voilà.
Je crois que Il reste effectivement des tas de choses dont on pourrait discuter, mais il est 8h25, donc je propose qu'on s'en tienne là en disant encore une fois merci beaucoup.
Merci à vous.